Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
16h passé de... Allez, bientôt 55 minutes. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. On est avec Gabriel Cluzel. Bonsoir, ma chère Gabriel.
Bonsoir, Patrice.
De la rédaction de Boulevard Voltaire, Tatiana Renard-Brassac.
Bonsoir, Patrice.
Tatiana, éditorialiste politique, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Pile poil, à l'heure, comme d'habitude. Quel sens du timing, cher ami. Et... Et le présentateur balance.
Vous voulez créer une chaîne YouTube? Jean-Sébastien Ferjou nous rejoint.
Allez, on y va. J'appelle tout de suite Serge Néjar. Et Karim Zerébi, qui est consultant CNews. Bonsoir à tous les quatre et merci d'être avec nous. Dans un instant, la Minute Info. Mais juste avant, eh bien, Emmanuel Macron, vous le savez, qui était hier et aujourd'hui du côté de Bruxelles, il s'est même lancé dans un marathon diplomatique, puisqu'il y a bien sûr ce Conseil européen, c'est-à-dire le dernier Conseil européen d'Emmanuel Macron avec sa casquette de président de l'Union européenne. Il doit enchaîner avec eh bien, le G7 en Allemagne. Puis, il enchaînera avec le sommet de l'OTAN à Madrid. Ce sera jusqu'à jeudi prochain, de Bruxelles à Paris, un leitmotiv. Construire, bâtir, d'après le président, ça marche au niveau européen. Et devinez quoi, ça va marcher aussi en France.
Il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir trop de pouvoir, parce que des majorités trop claires. La France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue, d'ailleurs, en 1988, peu de choses de différence, mais elle est surtout affreusement banale au niveau européen. Sur l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, certains avec 5, 6, 7 partenaires, ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire. Donc je ne crois pas une seule seconde. La question qui nous est posée à tous, dirigeants européens, dans des pays, on le voit bien, où les divergences montent, parfois les extrêmes montent, ce qu'on a vu aussi dans notre pays, c'est de bâtir des compromis pour pouvoir convaincre tout le monde, en tout cas le maximum, obtenir des majorités constructives.
La France est-elle vraiment bâtir des compromis? Jean-Sébastien Ferjou, la France est-elle bâtir des compromis?
Des compromis, oui, mais derrière le mot compromis, le diable est toujours dans les détails, parce que moi je trouve qu'il y a une espèce de chantage au constructivisme en quelque sorte. C'est comme si vous disiez « je suis pour la paix dans le monde », bah oui, personne ne va dire « bah non, pas moi, je suis contre la faim dans le monde », personne ne va dire « bah si, moi je suis pour la faim dans le monde enfin, ». À l'exception peut-être de la Russie qui essaie d'organiser une famine pour pousser un certain nombre d'États à soutenir sa politique en Ukraine. Mais ça relève un peu du chantage, parce que ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Derrière, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois la vision politique. Quelle est la vision politique d'Emmanuel Macron? Parce que le compromis n'est jamais qu'une méthode, ça n'est pas un objectif, ça n'est pas un contenu politique, le compromis. Et parler de la méthode sans parler finalement de l'objectif, c'est parler de pas grand-chose. Et autre point, il y a aussi toute la gouvernance d'Emmanuel Macron, parce qu'encore faudrait-il qu'il change profondément, parce que construire des compromis au Parlement, c'est une chose, mais si Emmanuel Macron continue, lui ou Alexis Colère ou l'Élysée continue à décider de chacun des directeurs de cabinet des ministres, on peut toujours nommer des ministres de droite ou des ministres d'ouverture, comme vous voulez, s'ils sont sous tutelle de leur directeur de cabinet ou de directeur d'administration centrale qui sont exclusivement choisis par l'Élysée, vous voyez bien que derrière le mot compromis, en réalité, il n'y a pas beaucoup de bonnes intentions de celui qui se montre sous ce visage de bonnes intentions.
La politique intérieure qui s'est une fois encore invitée sur la scène européenne, Tatiana Renard-Brassac, qui nous dit qu'il souhaite faire des compromis, ça c'est pas une surprise, mais il nous dit toujours pas comment.
C'est un peu ça le souci. D'abord, premier étonnement, c'est qu'il nous parle de cela, alors que normalement sa règle justement, c'est de ne pas parler de politique intérieure lors
de l'Assemblée nationale.
Donc ça c'est intéressant. Et c'est vrai qu'il ne nous avait pas habitués à ça. L'art du compromis, c'est pas celui qu'incarne en tout cas Emmanuel Macron. Et quand on voit là ce qui se profile, quand on voit les oppositions justement qui sont vent debout, parce qu'en fait, ce qu'il a réussi à faire lors de son allocution télévisée, c'est qu'il a rejeté la balle dans leur camp en disant « voilà, vous avez 48 heures pour me rendre votre copie ». Le problème, c'est que les oppositions sont en train chacune de travailler dans leur coin à des projets de loi, avancent notamment sur le projet de loi pouvoir d'achat. Et quand on voit la diversité en fait, des propositions, et surtout la diversité des propositions par rapport à celles présentées par la majorité présidentielle, on se dit que le compromis risque d'être compliqué et que c'est peut-être plus la majorité présidentielle qui doit faire un compromis que les oppositions. Et là, ça pose une vraie question. Et donc, c'est vrai que, sincèrement, enfin, je vais utiliser une petite pirouette, mais je vais vous dire que c'est peut-être plus simple aujourd'hui de monter des meubles Ikea que de faire certains compromis. compromis au cas par cas sur certains textes. Parce que sincèrement, je prends un exemple très concret, pouvoir d'achat par exemple. Pouvoir d'achat, on voit la droite qui dit nous on n'est pas pour la politique du chèque, on est pour le travail, on veut que ça passe par le travail. On voit que par exemple la majorité présidentielle, elle, c'est un chèque alimentaire, notamment de 50 à 60 euros, ça encore c'est pas très défini. On voit que les oppositions, notamment le RN, eux, c'est plus de TVA sur une centaine de produits de première nécessité. On voit que la NUPES, eux, c'est on supprime totalement, on fait la baisse de la TVA sur certains produits. Donc on voit qu'il y a une diversité des propositions et surtout d'approches, mais même philosophiques en fait, qui évidemment recoupent en fait chacun de ces partis idéologiquement parlant, qui vont être compliquées. Pour certains, ça risque d'être des compromissions. Pour certains compromis.
La France sait bâtir des compromis. Le sentiment de Karim Zeribi et de Gabriel Cluzel, juste après le rappel des titres, la Minute Info avec Jeanne Cancard. Bonsoir Jeanne.
Les suites du procès de harcèlement à France Télécom, le ministère public a requis en appel un an de prison, dont 6 mois avec sursis contre l'ancien PDG Didier Lombard et son ex numéro 2, coupable selon lui d'avoir conçu et mis en place une politique de harcèlement moral ayant conduit des salariés au suicide en 2017, en 2007 et 2008. Aux États-Unis, la Cour suprême dynamite le droit à l'avortement. La plus haute juridiction américaine vient d'enterrer un arrêt qui, depuis 50 ans, garantissait ce droit. Une décision qui ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, mais qui renvoie les États-Unis un demi-siècle en arrière lorsque chaque État était libre de les autoriser ou non. L'ancien président Barack Obama a rapidement réagi et accuse la Cour suprême d'avoir attaqué les libertés fondamentales de millions d'Américaines. Près de 2000 migrants ont tenté ce matin d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. 130 d'entre eux y sont parvenus. C'est la première tentative de ce type depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.
Karim Zeribi, le président de la République, qui cet après-midi depuis Bruxelles a donc cité les exemples allemands et italiens. Le président de la République qui a dit croire qu'on peut avoir des majorités constructives. Ce que nous ferons, dit-il, avec l'ensemble des partis de gouvernement, de pouvoir bâtir soit des coalitions, soit des accords sur des textes pour avoir un agenda clair. Nous allons faire des compromis.
Il y a deux dimensions qui ne sont pas abordées, c'est assez gênant. La première de celle-ci, c'est le projet. On fait des compromis sur la base d'un projet. Quel est le projet ? Quelle est la vision du pays, du président de la République et de sa majorité présidentielle ? On a quelques mesures par-ci, par-là. Ça ne fait pas un projet pour la nation française, pour les 5 ans qui viennent et pour nous projeter au-delà. Car on sait très bien qu'on ne fait pas de la politique sur du court terme. Même si on peut le regretter, la posture des politiques est plutôt celle-là. Donc, tant qu'on n'aura pas le projet du président de la République et de sa majorité, il sera difficile de dire pour les oppositions comment elles peuvent se positionner. Deuxième élément, faire des compromis, c'est faire des concessions. Le président ne nous a pas habitués à être en mesure de faire des concessions. Et nous avons, parmi les groupes politiques à l'Assemblée, des groupes qui sont quand même assez campés sur leur position aussi. Ça veut dire que c'est plus que des concessions qui seront attendues de la NUPES et du RN notamment, pour ne citer que ces deux groupes. Je ne parle pas du LR, parce que de mon point de vue, LR et la majorité présidentielle, c'est deux groupes qui pourraient, sur certains sujets, assez rapidement trouver ce que le président appelle un compromis. J'entends la sécurité et la justice. Ça veut dire que le président et sa majorité seraient à même de faire des concessions sur le terrain des propositions du programme des Républicains. Je pense que ça...
Même avec l'élection du nouveau président de groupe ?
Je pense que ça, c'est possible. Non, le président de groupe, c'est un contrat de gouvernement qui ne sera pas possible. En revanche, sur la sécurité et la justice, parce qu'il faut quand même aller devant ses électeurs en circonscription, expliquer que si on reprend une, deux, trois de vos propositions, ben, vous ne votez tout de même pas le texte. Il faudra l'expliquer. Je ne crois pas que le président soit en mesure de faire des concessions aussi importante à la NUPES et au RN. Donc, l'art du compromis, c'est l'art des concessions. Le président de la République, ce n'est pas sa culture. Et les partis d'opposition en présence, je pense à la NUPES et au RN, ce n'est pas trop leur culture non plus. Donc, acte 1, le projet. Acte 2, est-ce qu'il est capable de faire des concessions ?
Gabriel, je vais apporter une toute petite précision. 2 secondes, pardon, Gabriel. Moi, il me semble quand même avoir entendu entre lignes aujourd'hui, quand le président s'est exprimé, il a dit parler de majorité constructive avec l'ensemble des partis de gouvernement. Et je pense que cette précision, elle était intéressante. Elle apporte peut-être un début de réponse à ce que vous dites, Karim, parce que des partis de gouvernement.
C'est-à-dire pas le RN,
ni la France Insoumise.
C'était voilà. Déjà présent dans sa déclaration précédente.
Oui, bien sûr, mais là, ça
l'avait dit en disant pour hors de question d'alourdir la dette économique et environnementale.
Et Olivier Grégoire l'avait aussi précisé.
Et sur sa déclaration de la dernière fois à 20h, souvenez-vous aussi, il a omis le sujet pouvoir d'achat pour évoquer le sujet sécurité-justice. Thématique effectivement sur lesquelles il pourrait se retrouver avec ce groupe qui est un ancien parti du gouvernement.
Il avait aussi omis Elisabeth Borne. Ça, c'est un tout autre sujet. On y viendra tout à l'heure. Gabriel Cluzel.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu pendant 5 ans un homme qui n'était pas un homme de compromis. C'était quand même la politique du bulldozer. D'ailleurs, on dit aujourd'hui le pays va être ingouvernable. Pardon, mais pendant 5 ans, il n'est rien sorti de marquant parce que cette politique du bulldozer et du pouvoir législatif absorbé par le pouvoir exécutif a fait que l'opposition s'est retrouvée dans la rue, les gilets jaunes. Bon, après, le Covid, on peut dire que ce n'est pas de son fait, évidemment, mais néanmoins, la façon dont il l'a mené tambour battant sans s'occuper du pouvoir législatif a encore accentué cette impression d'autorité et de politique du bulldozer. Et donc, en fait, moi, je récuse cette rhétorique consistant à dire que c'est ingouvernable, ce genre d'assemblée. Non, ça réinjecte de la démocratie. Alors, on voit bien qu'il y a quand même des discours qui sont fluctuants sur les compromis, avec qui, comment, parce que certains députés, l'AREM, ont commencé à dire... Et d'ailleurs, même Elisabeth Borne, hein, sauf erreur de ma part, je crois qu'on dit pourquoi on ne voterait pas, par exemple, des propositions du Rassemblement national. Et c'est vrai que sur un plan démocratique, quiconque fait une proposition...
C'est une calvèse qui est un peu reprise par la patrouille.
De regarder. Alors voilà. Mais certains ont été, comme vous dites, rattrapés par la patrouille. Donc on va voir comment les choses évoluent. Parce qu'évidemment, le grand risque pour Emmanuel Macron, c'est que ça, toute sa théorie du barrage... Qui a bien fonctionné pour les dernières présidentielles, ne puisse plus resservir par la suite pour lui ou pour d'autres, hein, si ce n'est pas lui qui se représente. A priori, ça ne devrait pas être lui. Parce que, évidemment, à partir du moment où on a fait des compromis avec certains, on ne peut plus dire après « Ah, c'est la bête du Gévaudan, on ne peut plus rien faire avec... »
La situation est affreusement banale, voilà ce qu'a dit le président Macron. Il faut bâtir des compromis, oui, mais comment ?
Mais la situation n'est pas affreusement banale. La France n'a pas les mêmes institutions que l'Allemagne ou l'Italie. Il y fait référence, mais c'est-à-dire que l'Italie, quand une coalition ne fonctionne plus, regardez Matteo Salvini, mais c'est au-delà de la culture politique, ce sont les institutions et le mode de ce que... Mais je suis d'accord avec vous, mais les deux vont de pair. Mais on ne peut pas faire abstraction des institutions françaises. Dans les pays qu'il évoque, le chancelier allemand, le président du Conseil italien sont responsables devant le Parlement. La coalition s'effondre, il dégage Emmanuel Macron. Si tant est qu'il y ait une coalition, il resterait le président de la République. Donc c'est absurde de faire ces comparaisons. Il n'y a pas, à la limite, il pourrait comparer avec la situation américaine, où parfois il y a des projets de loi, enfin des lois qui sont votées grâce à une collaboration entre les partis quand l'occupant de la Maison Blanche n'est pas de la même couleur politique que la majorité du Congrès et du Sénat. Mais pour revenir sur ce que disait Karim tout à l'heure, même sur des sujets comme la police ou la justice, en réalité ça traduit cette espèce de maladie française d'obsession pour la loi, comme si tout se jouait dans la loi. À chaque fait divers une loi ou à chaque problème une loi. Mais le sujet c'est pas de voter de nouvelles lois en matière de justice et d'ailleurs le sujet, c'est la politique pénale qui est mise en œuvre ou la politique de maintien de l'ordre qui est mise en œuvre dans le pays. Mais ça, Emmanuel Macron, il nous a habitués à ce que, de toute façon, il a voté des lois qui étaient plus répressives. Quand vous regardez le bilan législatif d'Emmanuel Macron, il a voté, ou en tout cas la majorité du dernier quinquennat, a voté des lois qui étaient plus répressives. Est-ce que pour autant, ça a changé la politique pénale ? C'est toujours Éric Dupond-Moretti. Avant Éric Dupond-Moretti, c'était Nicole Belloubet, c'est-à-dire en droite ligne avec la pensée et la politique de Christiane Taubira. Même chose au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, il est co-géré par les syndicats. Donc de toute façon, si vous n'avez pas cette espèce de profonde révolution culturelle française qui concerne aussi bien Emmanuel Macron lui-même, comme on l'a tous dit, sur son tempérament, que le reste finalement des gens qui sont dans les milieux de gouvernement, rien ne se produira. Okay.
Donc, deux remarques. J'évoquais la culture quand on parle des Allemands, parce qu'alors, allons-y, poussons la comparaison jusqu'au bout. Entre les organisations patronales et les organisations salariales en Allemagne, donc l'art du compromis, il est cultivé depuis des décennies, pour ne pas dire depuis toujours. Et pour autant, on n'est pas dans la même capacité chez nous. On voit bien qu'on est plus dans une approche qui est frontale, qui est celle effectivement du clash permanent. Parce que justement, nos organisations syndicales salariales et patronales ne savent pas céder des concessions les unes envers les autres. En tout cas, pas suffisamment pour avancer sur le terrain social et économique. Sur la justice et la sécurité, c'est vrai ce que dit Jean-Sébastien, mais il y a quand même une limite, excuse-moi. Je veux dire, quand il faut voter des investissements ou des crédits supplémentaires, ça passe par l'Assemblée. Donc, or, la LOPCI, qui est une des lois que doit porter Gérald Darmanin...
Je ne dis pas le rôle de la loi, je dis juste que...
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est là aussi qu'il faut aller chercher des alliances et des majorités. C'est quand on veut dire ce service public, on va lui donner le moyen de faire appliquer le code pénal. parlons de la justice, c'est le thème que tu as pris. Ça veut dire plus de places de prison, des infrastructures, donc des crédits, donc des effectifs, plus de centres d'éducation renforcés, fermés et autres. Ça passe par l'Assemblée nationale. Et si vous proposez ça au LR, je les vois mal dire non, et même au RN. Alors peut-être que l'ANUPS pourrait, sur ces questions-là, effectivement, s'abstenir, donc pas voter contre. Mais je vois mal LR et RN sur ces questions-là.
Ils souffrent de la même maladie. Parce que la réalité, c'est qu'on peut voter des crédits en plus. Si les crédits en plus, ils sont automatiquement absorbés par les gaspillages administratifs qu'on voit dans quasi toutes les grandes administrations françaises. Parce que le ministère de l'Intérieur, son budget augmente depuis des années, comme le ministère de la Santé, comme le ministère de l'Éducation nationale. Et pour autant, l'argent ne va pas aux gens qui sont sur le terrain et qui ont le plus besoin, que ce soit les policiers, que ce soit les infirmières, que ce soit les enseignants. Donc le sujet, justement, il n'est pas la politique que de se mettre d'accord sur un projet de loi. Il serait une vraie latitude politique donnée, y compris à des partenaires d'Emmanuel Macron. Parce qu'un ministre de l'Intérieur qui ne change rien aux habitudes actuelles, qui continue à gouverner, à co-gouverner, à co-gérer le ministère de l'Intérieur avec les syndicats, idem pour le ministère de l'Éducation nationale, vous pourrez voter toutes les lois nouvelles que vous voulez, vous mettre d'accord sur plus de moyens, ça sera absorbé par les mêmes travers que...
Oui, après,
bah oui, mais vous voyez ce que je veux dire.
Si on a des places de prison, peut-être effectivement... Non,
je ne sous-estime pas le rôle de la loi, je vous dis juste qu'il y a tout cet autre volet qu'on sous-estime, et ça c'est une révolution culturelle.
Mais compliqué, c'est déjà compliqué, Gérard.
Gabriel, je vais reprendre Gabriel, comparaison n'est pas raison, effectivement, il a été mal inspiré, le président de la République, Emmanuel Macron, de comparer la situation allemande, italienne, avec effectivement la France. Il y a une différence d'institution.
Non, mais bien sûr, nous avons notre culture propre, mais est-ce qu'il a le choix, très honnêtement? Non, il n'a pas le choix, parce que sinon, vraisemblablement, il n'avancera en rien. On peut imaginer, de fait, que sur les sujets sociétaux, par exemple l'euthanasie, il vote avec la NUPES, avec une partie progressiste du Parlement, et puis sur des sujets plus sécuritaires, l'immigration, etc. Et là, il cherchait, c'est tenté qu'il le veuille, hein, mais les LR, peut-être même le RN, je dirais que fondamentalement, il n'a pas le choix, et c'est dans cette situation qu'ont voulu le mettre les Français. Ils sont très contents quand on voit les sondages. Ils disent qu'ils sont ravis qu'il n'ait plus les points de pouvoir. Moi, je pense qu'on a un petit peu sous-estimé l'effet, on n'en parle jamais, l'effet de la crise sanitaire, au-delà des controverses de vaccins, pas vaccins, etc. Mais les gens se sont dit tout d'un coup, en fait, on peut nous mettre sous clé, sous cloche, et sans que finalement grand monde soit concerté.
Et les, du coup, vous pensez qu'ils sont rassurés, les Français?
Parce Moi, je pense qu'ils sont rassurés.
Du retour du pass vaccinal.
Je pense qu'en tout cas, il y a eu cette impression très forte que ce gouvernement pouvait faire de 60 millions de Français ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, ils se sentent rassurés, paradoxalement, mais c'est comme ça, de voir ce gouvernement un peu paralysé dans son action.
Je pense que d'abord, on l'a vu lors du Covid, l'union nationale, c'est très compliqué en France, même sur des sujets pourtant qui devraient être une évidence. On l'a vu pendant ce Covid. Deuxièmement, je pense que c'est pas par hasard, même si évidemment c'est tout à fait dicté, ça je le nie absolument pas, par l'urgence de la situation, la loi pouvoir d'achat et le projet de loi sur le climat, ce sont deux sujets par ailleurs assez quand même consensuels, c'est-à-dire que tout le monde s'accorde sur l'urgence de la situation, et donc on voit mal comment on ne pourrait pas arriver à des compromis, parce que ceux qui renonceraient à ces compromis seraient les premiers pointés du doigt, parce qu'ils sont quand même là pour représenter justement les Français et pour essayer justement de servir leurs intérêts. Et troisième chose, ça mène à cela, certains partis, notamment le RN, n'ont pas arrêté de nous expliquer que c'était des oppositions constructives et qui seraient justement dans la défense de l'intérêt des Français. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir qui s'oppose et qui arrive à s'imposer. Je m'explique. On voit par exemple la NUPES, notamment la France Insoumise, qui est très décriée pour sa radicalité et qui là, pour l'instant, dans une opposition assez forte par rapport aux positions du gouvernement et par rapport justement à un compromis possible. On voit le RN qui est dans une entreprise de dédiabolisation, qui même en termes d'image a fait son entrée à l'Assemblée cravatée, costumée, etc.
Et qui parle de position constructive.
Et sur le fond et sur la forme, le souhait de vraiment montrer qu'ils peuvent être un parti de responsabilité. Et ça va être très intéressant de voir justement entre ces deux partis-là, notamment, qui s'opposent et qui s'impose comme quelqu'un de responsable, parce que je pense que justement, la gauche radicale a peut-être à perdre dans cette histoire aussi s'il reste sur des positions trop obtuses et s'il considère qu'il faut...
Vous me dites que ce que le RN a fait avec Éric Zemmour pendant la présidentielle ou même pendant les législatives, ils veulent désormais le faire avec la France Insoumise.
À l'Assemblée nationale, bien sûr. Et ils sont en train d'essayer justement de marginaliser, bien sûr, et de radicaliser. D'ailleurs, c'est cela, pardon, mais une aparté deux secondes. C'est ça qui a coûté en fait à Jean-Luc Mélenchon. Quand vous analysez le vote législatif, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Luc Mélenchon est dans la radicalité absolue. C'est son fonds de commerce. C'est comme ça d'ailleurs qu'il attire les gens qui sont en colère avec un vrai programme du fond, hein, ça évidemment, bien sûr. Mais du coup, cette ligne de crête-là, quand ils n'arrivent pas à la tenir, les gens prennent peur et du coup partent vers quelqu'un qui a l'air moins radical, en l'occurrence Marine Le Pen, qui a joué à fond la carte justement de la bienveillance, de l'écoute et beaucoup moins de la radicalité, qui a tenu ses troupes par rapport à ça. Et donc ça, je pense que c'est là où il faut que LFI fasse attention parce qu'ils ont à perdre à ce sujet.
Mais vas-y.
Non, mais juste pour rebondir sur ce que disait Tatiana, deux choses. Oui, je suis d'accord avec ce que vous disiez. On va voir qui joue la carte de la notabilisation et le Rassemblement national a probablement beaucoup à gagner là-dessus s'il arrive à tenir un groupe qui est fait d'un certain nombre de gens qui n'ont pas tant d'expérience politique que ça. Après, sur les sujets qui sont dits des évidences qui seraient évidences en termes d'Union nationale, il y en a très peu en réalité, parce que le diable est toujours dans les détails. Gabriel évoquait les questions sanitaires. Non, il n'y avait pas d'évidence absolue. Parce que
ça va être le troisième sujet, bien sûr.
Non, mais parce qu'il peut y avoir des hiérarchies et des priorités. La politique, c'est ça. Si on priorise les libertés publiques ou si on priorise une espèce de souci de sécurité absolue, ce n'est pas la même chose.
Regardez.
Non, mais j'ai compris, mais même, regardez, si je vous dis la politique.
C'est les moins compliqués, la retraite, ça va être évidemment très compliqué.
Si je vous dis la politique du logement. C'est une priorité en France. Le logement social, c'est une priorité en France. Tout le monde va me dire, bah oui, faisons donc une union nationale. Sauf que la vision de la NUP, ça va être de dire, on va faire du contrôle des loyers, par exemple. Mais moi, je vais vous dire, enfin, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, mais disons, en ayant une sensibilité plus libérale, je voyais ce matin une étude qui a été publiée très intéressante aux États-Unis. Alors là, c'est grandeur nature entre les villes de Saint-Paul et de Minneapolis qui sont jumelles. Saint-Paul a fait du contrôle des loyers en un an. Moins 84% de permis de construire à Saint-Paul par rapport à Minneapolis. Donc le contrôle des loyers, c'est une catastrophe absolue. Mais c'est pour ça, juste cet exemple-là, pour vous dire, ce sont des fausses évidences en réalité.
Moi, j'ai envie de dire qu'il y a déjà ayons un ministère du logement, ça serait déjà pas mal, en fait.
Oui, mais ça ne sera toujours pas le contenu d'une politique.
Bien sûr.
Je veux revenir sur le terme de radicalité qu'a utilisé Tatiana en parlant du RN et de Jean-Luc Mélenchon en évoquant les deux postures. La différence, de mon point de vue, est pas tant dans le degré de radicalité. C'est dans la capacité à Marine Le Pen à avoir une jambe qui est celle du pouvoir d'achat dans le volontarisme social qui a été le sien et une jambe qui était celle du régalien. Donc, et jambe qui manquait totalement à Jean-Luc Mélenchon. Et je trouve qu'effectivement, Marine Le Pen a pu ratisser plus large pour cette législative parce qu'elle marchait sur ses deux jambes. Et qu'il y a deux aspirations dans le pays pour une majorité de Français qui souffrent. Et ils sont plus nombreux que ce que veut bien le penser peut-être Emmanuel Macron et sa majorité présidentielle. Les Français qui souffrent, qui ont des fins de mois difficiles, qui ont perdu des classements. C'est celle, effectivement, de vivre au mieux de son travail et c'est celle de vivre en sécurité.
Elle a
porté ces deux sujets concomitamment, de manière équidistante. Donc, de la même manière, ce qu'en a pas fait Jean-Luc Mélenchon, il a perdu sur le régalien. De mon point de vue, il a perdu au moins 50 députés avec sa sortie sur la police tue.
La minute info, 17h passée de 16 minutes, Jeanne Cancard.
Alors qu'une troisième plainte a été déposée aujourd'hui contre elle, la secrétaire d'État au développement, Chrysoula Zakharopoulou, juge inacceptable et révoltante les accusations de viol la visant. Cette gynécologue de 46 ans est accusée par plusieurs anciennes patientes de viol et de violences gynécologiques. En Haute-Savoie, deux personnes sont mortes dans l'accident de leur avion de tourisme dans le massif du Mont-Blanc. Il s'agit d'un instructeur et de son élève. Le drame s'est noué en fin d'après-midi, hier, peu après le décollage de l'appareil. Les débris de l'avion et les corps des victimes ont été découverts tôt ce matin. À Bordeaux, plus de 10% du vignoble dévasté par la grêle en juin. C'est l'équivalent de 14 000 hectares qui ont été touchés par les deux derniers épisodes de grêle. C'est considérable, c'est un désastre pour les maisons et pour les cultures, a déclaré tout à l'heure le président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Vignes, maïs, légumes, aucune production ne semble avoir été épargnée.
Jeanne Cancard pour le rappel des titres. Je crois qu'on peut avoir des majorités constructives, ce que nous ferons avec l'ensemble des partis de gouvernement. De pouvoir bâtir soit des coalitions, Gabriel Cluzel, soit des accords sur des textes pour avoir un agenda clair. Nous allons faire des compromis.
Oui, non, je voulais revenir sur le point évoqué, la notabilisation des partis et le positionnement relatif dans ce domaine entre la NUPES et RN. C'est vrai que la NUPES, d'ailleurs, ça a été un peu le leurre de ces législatives, a privilégié le buzz, mais il y a le good buzz et le bad buzz. Oui, mais pendant les législatives, c'était quand même la NUPES, hein, avec la France insoumise au centre. Et toutes ces déclarations, vous l'avez évoqué, la France tue, mais même tous ses propos excessifs et même son comportement actuel pour rentrer. Voyez, vous disiez, le Rassemblement national a eu à cœur d'arriver en cravate, en costume, de montrer qu'elle est respectueuse des codes. Et je pense que c'est... Non, mais je pense que... En tout cas, je ne sais pas si elle le fera, mais je pense que c'est sa ligne de conduite. C'est-à-dire qu'elle est respectueuse des codes et des usages, alors que la NUPES pense
et
que...
Et des institutions.
Mais dans tous les registres. Des vêtements aux institutions, je dirais. Et alors que la NUPES, elle a à cœur de montrer, et la France insoumise a fortiori, qu'elle, elle est dans la transgression permanente. Et je pense que l'erreur, c'est de croire que, par exemple, les classes populaires seraient dans cette posture-là. Je pense que le Parti communiste, autrefois, avait à cœur précisément d'être respectueux de l'éducation et des usages, comme les bourgeois, entre guillemets. Et c'est une façon, finalement, d'être méprisant avec ces classes populaires, d'imaginer qu'en ressemblant à la famille Tuche, on va mieux les représenter. Je crois que vraiment, la NUPES doit réfléchir à l'image qu'elle renvoie dans tous les registres.
Bon, alors franchement, vous êtes hyper dur là. Vraiment, enfin, je pense que Ruffin et Co apprécieront, mais sincèrement.
Non, mais Ruffin, c'est peut-être le plus conscient du problème dans ce registre.
Le souci, justement, c'est que moi, j'allais rajouter à ce que disait Karine, qui manquait justement une troisième jambe, c'était les classes populaires. C'est-à-dire que la gauche de Jean-Luc Mélenchon n'a pas su capter le vote des classes populaires. C'est-à-dire plus un vote de CHP+, pas assez par rapport au RN. Et c'est justement le problème. Et justement, je parlais de Ruffin, et en fait, ça a sonné le soir des législatives. Il a dit quelque chose de très exact, je trouve. Il a dit en fait ce résultat est terrible, il y a un vrai blocage institutionnel et ça nous prouve qu'il va falloir qu'on reparte à la conquête des campagnes populaires. Et donc je pense qu'ils sont tout à fait conscients de cette lacune, de cette problématique. Et ça, c'est en effet, c'est pas une question de costume, etc. Mais si je prends la tangente, je vous dirais aussi que quand on veut ripolliner la vitrine, parfois vous me regardez ce qui se passe aussi dans l'arrière boutique. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qui se joue, c'est le premier parti d'opposition, pas en taille et pas en véhémence, mais celui qui va savoir défendre ses positions tout en restant ouvert pour défendre l'intérêt des Français. Parce qu'au final, c'est ça qui restera et c'est ça qu'on mettra à leur crédit ou pas.
Oui, mais ça émane de mauvais diagnostic, pardonnez-moi Patrice, de Jean-Luc Mélenchon et de ceux qui l'entourent, c'est de penser que parler de sécurité n'intéresserait pas les classes populaires. Parler éventuellement de gestion des flux migratoires n'intéresserait pas les classes populaires. Or, les classes populaires, donc, elles veulent effectivement vivre au mieux de leur travail. Pour celles qui sont au chômage, elles veulent retrouver du boulot, elles veulent avoir des logements dignes, mais elles veulent aussi vivre en toute tranquillité pour élever leurs enfants dans des espaces plutôt prospères et apaisés que des espaces qui sont ceux du chaos et de la délinquance. Et puis derrière, les immigrés même de notre pays qui sont en situation régulière, certes qui ne votent pas, mais qui vivent aussi dans ces quartiers aux côtés de Français qui votent, ben, ils ne sont pas contre la gestion des flux migratoires, comme on veut bien le laisser penser une certaine partie de la gauche. Parce que la gestion des flux migratoires, de contrairement à ce que disait Éric Zemmour et à ce qu'a pu dire aussi Marine Le Pen un certain temps, ce n'est pas l'immigration zéro, c'est gérer les flux migratoires, faire entrer un certain nombre de personnes dans notre pays avec un statut, pour des raisons précises, économiques en l'occurrence, mais les autres, être capable aussi de leur dire, vous devez retourner chez vous, parce que vous n'avez pas de titre de séjour. Ça, c'est une politique républicaine de gestion migratoire. Les habitants des quartiers populaires et les classes populaires et les habitants des quartiers populaires et les classes populaires de notre pays sont favorables à ça. Laisser entendre que ça ne les intéresse pas, que parler de gestion des flux migratoires, de sécurité, c'est des thèmes qu'il faut laisser au RN, c'est une erreur majeure.
Alors, c'est dans le programme.
C'est une erreur qui démontre que la gauche républicaine, ben, elle n'est pas assez forte dans notre pays aujourd'hui.
Non, mais je suis complètement d'accord avec vous, Karim. Et c'était dans le programme. Alors, c'est vrai que l'immigration n'est pas vraiment très vite dans le programme. Par contre, la police, rénover la police de la cave au grenier, c'était en programme de Jean-Luc Mélenchon.
Mais quand on dit la police,
une approche, bien sûr, avec une approche tout à fait différente, peut-être, de ce que souhaitent aujourd'hui les Français. Ça, c'est
allez, vous restez avec nous un instant. On prendra la direction des États-Unis. La Cour suprême révoque le droit constitutionnel à l'avortement et laisse chaque État libre de l'interdire. On sera dans un instant depuis New York avec notre consoeur Elisabeth Guedel. Vous restez avec nous. A tout de suite. Allez, la suite de Punchline, toujours avec Karim Zeribi, consultant CNews, Gabrielle Cluzel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Tatiana Renard-Barzac, qui est éditorialiste politique, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Dans un instant, on partira du côté des États-Unis avec Elisabeth Guedel, effectivement, suite à cette décision de la Cour suprême concernant l'avortement. C'est juste après le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancar.
En déplacement en Seine-et-Marne, Elisabeth Borne défend l'apprentissage, un énorme levier de l'égalité des chances selon elle, alors que le coût de l'investissement dans l'apprentissage des jeunes a été épinglé par la Cour des comptes. La Première ministre qui a par ailleurs confirmé que les aides à l'apprentissage seraient prolongées au moins jusqu'à la fin de l'année, ce qui permet à l'entreprise de ne quasiment rien payer pour la première année. L'inflation devrait encore continuer d'accélérer en France pour atteindre 6,8% sur un an en septembre, un taux qui restera en place durant les derniers mois de l'année selon les prévisions de l'INSEE, ce qui amputerait le pouvoir d'achat des ménages de 1% en dépit des mesures de soutien public déjà annoncées ou bientôt en place. Les syndicats de la SNCF ont choisi la veille des grands départs de vacances d'été pour lancer une grève. Ils vont se mobiliser mercredi prochain pour réclamer des hausses de salaire face à une inflation qui s'envole. En outre, l'ouverture à la concurrence et 8 ans de gel de salaire, tout le monde se demande à quelle sauce il va être mangé, a déclaré le secrétaire fédéral Sudrail. Selon les syndicats, les cheminots sont durement touchés par l'inflation et subissent de plein fouet un fort recul de leur pouvoir d'achat.
Jeanne Cancar, pour le rappel des titres de l'actualité, dans Punchline sur CNews. On part sans plus tarder aux États-Unis avec cette Cour suprême qui révoque le droit constitutionnel à l'avortement, ce qui laisse chaque État libre de l'interdire. Bonsoir, ma chère Elisabeth Guedel, correspondante de CNews à New York, aux États-Unis. Cette volte-face historique ne rend pas illégale, on précise, les interruptions de grossesse.
Ah oui, l'avortement n'est pas interdit aux États-Unis. En revanche, ce qui est la fin, et c'est historique, hein, c'est la fin du droit garanti à toutes les femmes des États-Unis, quel que soit le lieu où elles habitent, de pouvoir recourir à l'IVG, à l'avortement. Actuellement, 40 millions de femmes aux États-Unis se retrouvent dans des États où l'avortement est interdit, c'est instantané après cette décision de la Cour suprême, ou va être interdit, 13 États actuellement, d'autres, une dizaine, vont certainement suivre. Donc c'est historique, c'est la fin d'un droit garanti à l'échelle nationale, il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, mais ça, voilà, c'est la fin de 50 ans de ce droit. Ce sont les conservateurs au sein de la Cour suprême, hein, les 6 juges les plus conservateurs qui ont pris cette décision, 5 juges, et c'est surtout ces juges qui ont une lecture littérale de la Constitution. Ils disent que si la Constitution ne parle pas d'avortement, eh bien, il n'y a pas de droit à l'avortement garanti. Donc c'est cette interprétation littérale, et on le voit de plus en plus dans les décisions prises par la Cour suprême, qui domine actuellement aux États-Unis.
Elisabeth Guedel, qu'on va retester la connexion. Elisabeth, c'est une décision qui était attendue, on le sait, aux États-Unis, puisque c'est vrai que ça faisait quelques semaines que ces débats justement faisaient les gros titres là-bas.
Je ne vous entends plus.
Elisabeth Guedel, qu'on va retrouver dans un instant, on va retester la connexion. Jean-Sébastien Ferjou, quel est votre sentiment? Je sais que vous êtes toujours très au fait de ce qui se passe aux États-Unis.
Effectivement, comme Elisabeth Guedel le disait, ce n'est pas une interdiction de l'avortement. Simplement, certains États pourront, s'ils le souhaitent désormais, l'interdire. Je ne suis pas certain que ça changera beaucoup en réalité, parce qu'il y a des États qui sont tellement hostiles à l'avortement, qui avaient mis des législations qui étaient très dures contre l'avortement, et où de facto, il était très difficile d'ores et déjà pour les Américaines de se faire avorter. Il y a 26 États, me semble-t-il, sur les 50 États américains, qui ont dit qu'ils voulaient, dans l'hypothèse de cette décision qui a été prise aujourd'hui, qu'ils durciraient leur législation sur l'avortement, notamment les États du Sud. Après, quand vous regardez, la situation aux États-Unis est très contrastée, parce qu'il y a aussi des États qui sont très libéraux en matière d'avortement. Par exemple, la Virginie est un État qui permet d'avorter quasiment jusqu'à 6 mois. Les États de la côte est américaine, la Floride, le Maine, etc., sont des États où on peut avorter bien plus longtemps que n'importe où ailleurs, dans un délai bien plus important que n'importe où ailleurs en Europe. Donc c'est une situation qui est très contrastée. Moi, ce que je trouve profondément inquiétant, c'est, je vous dis, pas tellement cette évolution juridique, parce que je crois pas qu'elle changera grand-chose. En revanche, derrière ça, il y a autre chose. Il y a les États qui interdisent l'avortement et qui se sont mis en tête potentiellement d'utiliser contre les femmes qui auraient recours à l'avortement leurs recherches sur Internet. Et donc, ça pose toute la question de la sécurité des données. Ça pose toute la question profonde des libertés publiques. Et je pense que c'est un sujet qu'on oublie tous très joyeusement, parce que effectivement votre smartphone, si l'État a le droit de mettre le nez dans votre smartphone pour vérifier si vous avez cherché, je sais pas quoi, pour acheter X ou X truc, ça peut aller très très loin en matière de restriction des libertés publiques, et ça c'est très grave, au-delà bien sûr du fait que des États qui interdiraient totalement l'avortement, ça ne peut que créer des situations humaines dramatiques.
L'ancien président démocrate Barack Obama qui vient de réagir, il accuse la Cour suprême d'avoir, je le cite, « attaquer les libertés fondamentales de millions d'Américaines ». On a retrouvé la connexion avec Elisabeth Guedel. Elisabeth, on le voit sur ces images qui nous parviennent en direct depuis Washington, justement. Bon nombre de femmes et d'hommes sont en train, justement, de se rassembler pour contester cette décision.
Oui, vous le voyez sur ces images, la Cour suprême qui a été barricadée hein, avec des grilles en prévision de cette annonce, puisqu'il y avait eu des fuites dans la presse que la Cour suprême s'orientait vers la fin de ce droit à l'avortement. Donc il y a des manifestations. Le pays va connaître une période encore plus tendue, il va y avoir de plus en plus de manifestations. Il faut savoir que quand même aux États-Unis, les deux tiers des Américains étaient pour ce droit à l'avortement, qui est une majorité plutôt stable au fil des ans, au fil des décennies. 40% d'anti-avortement, un chiffre qui n'a jamais dépassé hein, ces 40%, mais ça reste extrêmement tendu. Donc on va connaître cette période-là. Déjà un pays très divisé. On s'y attendait hein, depuis Donald Trump, qui avait promis de nommer des juges qui reviendraient sur ce droit à l'avortement. Il a nommé 3 juges, 3 conservateurs en seulement 4 ans de présidence. Donc, eh bien voilà, c'est le résultat. Promesse tenue, on s'y attendait. Ça faisait 2 ans donc que les associations de défense des droits à l'avortement, des droits des femmes, s'attendaient à cela. Et la Maison-Blanche, évidemment, Joe Biden, qui devrait intervenir, qui compte s'adresser à la nation d'ici ce soir.
Merci beaucoup, Elisabeth. Elisabeth Guedel, depuis New York, en direct pour CNews. Tatiana Renard-Barzac, c'est l'un des effets, c'est, on peut dire, l'héritage de Trump, qui avait nommé justement 3 juges à cette Cour suprême.
On voit que l'Amérique de Trump et que la droite conservatrice a de beaux jours et on se dit que ça prépare peut-être un retour de Donald Trump. Quand on voit que certaines thématiques, l'avortement, mais c'est historique ce qui se passe là aux États-Unis quand même. Hein. Depuis 1973, il y avait un arrêt justement qui permettait aux femmes de recourir à l'avortement. Sincèrement, Simone Veil doit se retourner dans sa tombe en France. Enfin, c'est, là, pour les femmes, c'est quand même un moment aux États-Unis qui est historique et qui a un recul inédit en fait. Et donc quand on voit qu'il y a cette décision là aujourd'hui, quand on voit par ailleurs sur la question des lobbies, des armes à feu, avec la suite de la tuerie au Texas, on se dit que la droite conservatrice a de beaux jours aux États-Unis devant elle et que là, il se passe quand même des choses graves qui viennent rogner quand même sur le droit à la liberté individuelle des femmes à disposer de leur corps. Et je rappelle que l'avortement, ce n'est pas des avortements de convenance. C'est dans bien des cas, malheureusement, parfois, suite à des viols, suite à des grossesses non désirées et non provoquées.
Donc voilà, il faut regarder les chiffres.
Je dis
Gabriel Cluzet, qu'on n'a pas encore entendu, alors que l'on voit AOC, voilà, en train de s'exprimer AOC, Alexandria, Horacio Cortez, effectivement, qui est en train de parler, qui prend la parole justement juste devant la Cour suprême des États-Unis à Washington, D.C. Gabriel.
Oui, moi je suis quand même frappée du discours sur ce sujet. C'est pas là non plus, c'est pas un coup d'État. Hein. Les juges suprêmes sont là légalement et ils ont pris cette décision de façon tout à fait légale. Voilà. Il faut savoir que le climat, c'est pas les pro-IVG qui sont gentils et les anti-IVG qui sont méchants. Je rappelle que les juges de la Cour suprême ont fait l'objet de nombreuses menaces. Il y en a un qui a failli être assassiné près de son domicile. Je crois que ça a été évoqué il y a quelques jours sur CNews. Donc c'est pas ainsi que ça se passe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous l'avez rappelé, on peut avorter jusqu'à... Enfin, c'est ce que la Cour a décidé en 1992.
Jusqu'à 6 mois.
Oui, non, mais on peut 22 semaines. Enfin, moi, je renvoie toutes les femmes qui ont été enceintes une fois dans leur vie à ce terme. Alors, en France, quand l'enfant est... En France aussi, hein, ça peut même aller au-delà, 9 mois, quand l'enfant est handicapé, par exemple, souvent, on le dit.
Non,
mais voilà.
Rien à voir avec les États-Unis.
Ça reste un avortement. Et je vous rappelle que quand le délai a été repoussé jusqu'à 14 semaine en France, un certain nombre de professeurs de médecine ont dit attendez, attention, parce que il faut broyer la tête du bébé. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement violent pour la femme. Donc moi, je trouve que ce discours sur l'avortement, qui est très manichéen, de dire que ça va être un drame pour la femme de revenir sur ce droit à l'avortement, on peut aussi parler du droit qu'est pour la femme, enfin du drame qu'est pour la femme. Bien souvent, ces avortements et même Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Même Emmanuel Macron, quand il avait essayé de le dire l'an dernier, toutes les féministes lui étaient tombées sur le dos, alors que c'est
c'est un débat qu'on devrait avoir en France.
Mais évidemment, évidemment qu'il faut en parler de cela et de l'IVG et de ce que c'est au lieu d'être dans la poursuite en avant. Par exemple, moi je remarque que quand il y a eu ce vote sur ces 14 semaines, on a entendu, mais très peu de voix pour pour simplement donner des arguments inverses. Aujourd'hui, c'est un grand tabou. Vous savez pourquoi les conservateurs ont obtenu cela aux États-Unis ? C'est parce qu'aussi, ils ont fait un grand travail de proposition d'alternatives aux femmes enceintes. Et ça a été un travail culturel là-bas que nous n'avons pas forcément en France, alors qu'il y en a. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui avortent, qui, parce que parfois elles n'ont pas d'autre choix que de le faire, elles estiment qu'elles sont dans des conditions matérielles difficiles, parce qu'elles sont isolées affectivement, et il y a un certain nombre d'associations qui les aident tout simplement à garder leur enfant. Alors il y en a en France, hein, par exemple l'association Marthe et Marie. Voilà.
26 États, disait Jean-Sébastien Ferjou, devraient effectivement se diriger vers cette...
Pas vers cette interdiction, vers un durcissement.
Vers un durcissement des mesures. Certains États ont même évoqué le fait de garder son enfant, même si la jeune femme ou la femme était violée. Karim Zeribi, vous souhaitez réagir ?
Non, moi, ça me laisse penser qu'on parle souvent de civilisation occidentale et on se rend compte que finalement, au sein de notre civilisation occidentale, il y a quand même des fractures qui sont fortes sur nos approches culturelles. On l'a vu avec les armes, ce qui est concevable aux États-Unis est inconcevable chez nous en matière de détention d'armes et à l'identique sur ce thème-là, réprouver le droit à l'avortement tel que l'a fait la Cour suprême, ça paraît quand même inimaginable chez nous. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un fossé au sein de cette civilisation occidentale, un fossé culturel qui existe et qui est fort. Au sein de notre...
C'est pour ça que quand on parle... Il a raison, Jean-Sébastien, c'est le cas en Europe.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut...
Le droit irlandais, le droit polonais... Le droit...
Quand on parle de civilisation occidentale face à d'autres civilisations, c'est plus complexe que ça. À l'intérieur de notre civilisation occidentale, on a quand même des débats qui sont des débats civilisationnels, pour reprendre le terme, donc, qui existent. Donc on n'a pas...
Karim, regardez...
Si je peux aller au bout, si je peux aller après, tu reviendras. Mais j'ai un autre... une autre chose à dire, un autre point à le soulever. Par rapport à ce que dit Gabriel, moi je suis, je ne veux pas qu'on mette en cause le droit à l'avortement, très franchement, en France. En revanche, je ne suis pas pour qu'on ferme le débat sur le cadre de ce droit à l'avortement. Et je pense que certains font les deux assez rapidement. Certains disent, oh non, quand on parle par exemple du nombre de semaines qui permettrait aux femmes de se faire avorter, mais heureusement qu'on a le droit d'en parler.
Enfin, je veux dire. Trouvez, par exemple, passer de 10 à 14, ça vous pose un problème ou pas ?
Ben, je trouve que c'est pas un bon signe. Moi, je vais vous dire, Tatiana, je suis peut-être pas progressiste, et à la limite, comme tacte conservateur sur ce sujet, je suis pas un expert, un spécialiste, mais philosophiquement parlant, je me dis que quand même, l'avortement, ça n'est pas un mode de contraception. Non, mais il faut aussi qu'on remette les choses à leur place.
Une femme ne le voit comme ça et que c'est une douleur absolue pour une femme qui doit avoir...
Une douleur absolue, mais il faut peut-être aussi redire effectivement qu'il y a des situations qui doivent permettre ce droit à l'avortement. Ces situations, il faut les poser. Ce cadre, il faut le poser, le rappeler. On a le droit d'en débattre dans une démocratie qui est mature. Après, ça n'est pas le remettre en cause. Mais c'est aussi dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec ce droit à l'avortement. Est-ce qu'une femme, par exemple, peut avorter un nombre de fois illimité?
Non, mais je
vous pose une question. Je ne suis pas au fait, je vous pose la question.
Moi, je pars
si vous le savez, répondez-moi.
En France, je pars du principe.
Voilà.
Je pars du principe.
Donc, ça devient un mode de contraception.
Je pars du principe qu'une femme est responsable. Voilà, c'est peut-être stupide comme postulat de départ, mais en tout cas, je pars de ce principe-là.
Sur tous les sujets, on peut dire je pars du principe que le citoyen est responsable.
Je pense que c'est vraiment un sujet tellement personnel, douloureux pour les femmes qui doivent prendre cette décision d'avorter, quelle que soit la raison de cet avortement, que ce n'est pas quelque chose en général qui est fait à la légère.
Donc il ne faut pas remettre en cause si on y avorte 30 ou 50 fois dans l'année.
C'est pas ce que je dis, juste par rapport à ce que je viens d'entendre, et puis après j'arriverai exactement à ce que vous venez de dire. Et par ailleurs, pour ce qui est par exemple de l'avortement, du choix d'avorter quand on a fait une amniocentèse et qu'on se rend compte que par exemple on a un enfant qui est handicapé ou trisomique, c'est là aussi un vrai sujet extrêmement douloureux pour la femme et pour le couple. C'est vraiment un sujet très, très, très grave et très important. Mais juste pour finir par rapport à ce que disait Karim, bien sûr qu'il faut pouvoir discuter du cadre, des conditions, des délais, de l'intervention chirurgicale, médicamenteuse, bien évidemment. Et même d'ailleurs discuter de l'intervention médicamenteuse, parce que pour ceux qui ne le savent pas, prendre un médicament, c'est pas juste on prend un médicament et puis voilà, c'est fini. C'est, pour certaines femmes, c'est absolument dramatique de devoir mettre fin ainsi à la vie d'un enfant qui est dans son ventre.
Moi, je trouve ça tout à fait intéressant. C'est une vraie question. Et je suis complètement d'accord avec vous. Et je pense précisément que aujourd'hui, comme c'est un tabou, on ne veut pas dire que c'est un drame. Et moi, je reste persuadée que déjà les femmes ont le droit de le dire. Moi, j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit bah, « j'ai vécu mon avortement comme un drame, mais comme aujourd'hui, c'est vécu comme une réflexion de conservateurs américains de dire que c'est un drame, et ben, on n'a pas le droit de le dire. » Donc les femmes aujourd'hui sont obligées de taire les souffrances, leurs souffrances intérieures sur le sujet. Et peut-être que certaines, et j'en connais aussi, eh bien, si elles avaient pu, si on les avait aidées à avoir les conditions matérielles, mais encore faut-il que ces associations leur permettent de se déployer, eh bien, l'auraient gardée. Elles n'auraient pas eu cette souffrance, ou voire l'auraient confiée à l'adoption. Ce serait dit, bah, moi, je me sens pas de l'élever, mais je le confie à quelqu'un, et des parents auraient été heureux de l'avoir. Et le problème, c'est que ces débats-là, on n'a pas le droit aujourd'hui de les avoir. C'est absolument impossible. Par ailleurs, moi, pardonnez-moi, j'ai un tout petit désaccord, mais néanmoins essentiel sur un point. Vous dites, et c'est vrai que c'est pas vous, c'est un argument connu dans le cadre de l'IVG. Vous dites, c'est mon corps, mon choix. Bah, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même du matériel qui a été apporté par une deuxième personne. Hein. Moi, il n'y a pas de parthénogenèse. Voilà, on ne fait pas un bébé toute seule. Donc moi, je considère que l'homme aussi a le droit de citer. Et puis, ce n'est pas son corps. Nous, nos enfants, nous avons toutes les deux nos enfants, ils ne sont pas nous. Ils ne nous appartiennent pas. Donc je trouve cette phrase indigente. Elle ne rend pas compte de la réalité. Enfin, ce n'est pas la vôtre, hein, encore une fois. C'est pas pour, c'est la phrase qu'on dit dans ce cas-là, mon corps, mon choix. Ben non, c'est le corps d'un bébé, c'est pas, donc ça peut pas être complètement
notre
choix.
Et je vous laisse répondre à Gabriel dans un instant, juste après la minute info. C'est avec Jeanne Cancar.
Jeanne Cancar. Au procès des attentats du 13 novembre, dernier jour des plaidoiries de la défense, les avocats de Salah Abdeslam tentent de lui éviter la prison à vie. De son côté, le parquet national antiterroriste a réclamé contre le seul membre encore en vie des commandos la plus lourde peine du code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Face à la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, les ministres de 40 pays se réunissent à Berlin pour tenter de trouver des solutions concrètes, comme l'accélération des exportations de denrées alimentaires depuis l'Ukraine par des voies alternatives à la mer Noire. Depuis l'invasion russe, les prix de la nourriture grimpent en flèche et contribuent à la flambée mondiale de l'inflation. La chef de la diplomatie allemande accuse, elle, Moscou d'utiliser la faim comme une arme de guerre. Et en France, c'est dans quelques heures la finale du top 14. À partir de 20h45, les joueurs du Castres Olympique défient Montpellier au Stade de France. En jeu, un sixième titre de champion de France pour les Tarnais ou le premier pour les Montpellierains. Un remake de l'édition de 2018 où Castres s'était imposé avec une avance de 16 points.
Merci Jeanne Cancar pour le rappel des titres. Les Américaines, certaines Américaines dans la rue, a commencé à Washington, effectivement, devant la Cour suprême. Cour suprême qui a donc révoqué le célèbre arrêt Roe contre Wade de 1973 qui garantissait la liberté de choix des Américaines. On parle de 40 millions d'Américaines. Est-ce que, Jean-Sébastien Ferjou, on pourra atteindre en France, effectivement, le niveau de débat, ce que je veux dire, le niveau d'intensité, en ce qui concerne les pro-life et les pro-choice ou pas du tout?
Je ne crois pas que ce soit souhaitable parce que ça ne correspond pas à l'environnement culturel français. En revanche, on peut, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, poser des questions quand même, et je suis d'accord avec ce que Gabriel soulignait. L'allongement à 14 semaines a eu lieu dans des conditions où personne n'a véritablement abordé le fond des choses. Et même la détresse, je ne sais plus comment, la détresse affective, enfin,
ouais, détresse des femmes,
ou psychologique qu'on peut invoquer, c'est une définition qui est extrêmement floue, dans laquelle vous pouvez mettre énormément de choses. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'un point de vue juridique exactement. Après, la réalité, elle est contrastée. C'est très certainement un drame, mais c'est aussi utilisé parfois dans une logique un peu de renoncement. Et ça a été tracé dans beaucoup d'études. Il suffit d'ailleurs de regarder les chiffres. Le nombre d'avortements, on disait que la légalisation de l'avortement devait justement amener à éviter un certain nombre de drames, mais ça n'a pas été le cas du tout. L'avortement a même augmenté aux États-Unis, en tout cas dans un certain nombre d'États, depuis sa légalisation. Alors comprenez-moi bien, je suis absolument contre la remise en cause du droit à l'avortement. Mais pour revenir sur ce que disait Karim par ailleurs quand il disait il y a un point de civilisation, la logique américaine ne serait pas, par exemple, la logique de pays plus conservateurs d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que le raisonnement de la Cour suprême, ce n'est pas un raisonnement religieux.
Comme en Europe.
C'est un raisonnement construit sur la liberté. C'est-à-dire, au nom de la liberté, l'État fédéral n'a pas à se substituer à la volonté exprimée par les électeurs des États fédérés. C'est-à-dire, si les électeurs des États fédérés sont en faveur d'une interdiction de l'avortement, l'appartenance à l'union politique des États-Unis
Mais ne... Tu ne peux pas omettre les références religieuses dans ce pays, quand même, qui est très
oui, mais elles viennent...
imprégnées de cette
dimension. Mais je ne dis pas l'inverse. Mais Karim, ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
Il y a un point juridique qui est aussi corrélé d'une dimension religieuse. Mais
ce qui fonde le raisonnement juridique, c'est la liberté. Je suis d'accord avec vous que après, si vous regardez dans l'Oklahoma ou au Texas, ça va être le religieux qui prend le pas.
Et en Pologne, en Hongrie,
la Cour suprême, elle ne raisonne pas parce qu'elle s'inspire du Coran ou qu'elle s'inspire de la Bible ou d'un quel contexte religieux. Elle raisonne sur la liberté. Et les États-Unis, c'est ce qu'on ne comprend pas sur les armes aussi. Ça nous paraît fou d'un point de vue européen, mais c'est ce qu'on ne comprend pas sur les armes. Mais malgré tout, la liberté, ça reste un pilier fondamental de la civilisation occidentale. Et ça, pour le coup, ça unit quand même l'Occident.
Concernant les juges de la Cour suprême, à mon avis, ne s'est pas fait sur leur capacité à porter la liberté de
Copinac. Si, c'est là-dessus qu'ils ont été...
Trois choses. Je perds le signe. Je pense quand même que ça montre quelque chose de l'Amérique aujourd'hui et de leur enseignement à la droite conservatrice. Et en effet, avec une prégnance du religieux, un retour du religieux très fort et qui explique aussi certains
choix. Ce n'est pas le cas dans la pratique religieuse aux États-Unis.
Non, mais qui explique quand même certaines orientations, réorientations. Deuxième chose, si je compare et je reviens au débat qu'on avait sur la France, je rappelle quand même que l'allongement à 14 semaines, ça a été aussi lié à deux choses. D'abord, permettre un accès égal à toutes les femmes à l'IVG, parce que certaines sont loin de centres médicaux pour pouvoir justement pratiquer cela. Donc, permettre à certaines qui sont plus éloignées du soin et de l'accès aux soins de pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Et par ailleurs, avec le Covid, il y avait aussi évidemment, vous imaginez bien, des raisons extrêmement pratiques et compliquées pour pouvoir avorter quand on le souhaitait et quand on devait le faire. Deuxième chose, je persiste et je signe aussi, je pense que vraiment, je n'ai pas d'études en tête, mais je pense que si on regardait et quand on voit ce qui se passe autour de nous, on se dit qu'il y a peu quand même d'IVG de confort. C'est-à-dire que c'est pardon, mais la vérité, c'est que dans la majeure partie des cas, c'est soit des femmes beaucoup trop jeunes qui ne sont pas en état d'assumer un bébé. C'est malheureusement parfois...
Mais pour vous, ce n'est pas un moyen de contraception?
Non, je pense que c'est terrible de le présenter comme cela, et c'est un argument politique pour certains. Donc je pense que c'est vraiment vraiment faire fi.
Gabriel, ça n'est pas
raciste. Non,
rapidement, s'il vous plaît.
Troisième chose, je pense qu'il y a un vrai questionnement aussi à avoir sur le planning familial et sur la façon aussi dont on gère cela, on accompagne ces femmes-là, parce que, pardon, mais c'est un sujet tabou, vous le disiez.
Ah oui.
C'est un sujet tabou. Comment les femmes vivent ça, c'est le même ouais. tabou que sur le postpartum, qui pourtant là commence à devenir moins tabou, mais c'est un vrai tabou. C'est-à-dire que pour certaines femmes, et pour la majeure partie des femmes d'ailleurs, c'est très compliqué de devoir avorter, c'est très douloureux, c'est tabou, on ne peut pas en parler parce que justement, pour certains, c'est honteux d'avorter, pour d'autres, c'est pas entendable. Et donc voilà, donc c'est aussi un débat qu'il faut avoir sur le fait que c'est un droit, mais que c'est aussi parfois un parcours du combattant pour certaines, et parfois c'est extrêmement douloureux. Et je finis encore plus quand, on l'a vu encore quelques années, certains viennent s'enchaîner dans des lieux d'IVG pour essayer de faire l'obstruction à certaines
IVG. Gabriel et Karim, il ne reste que 2 minutes.
Non, mais je suis d'accord sur certains points, mais.
Sur le planning familial.
Et je suis assez heurtée que finalement on occulte cette souffrance de certaines femmes parce que on n'a pas le droit de dire que c'est un drame. Parce que si on disait que c'est un drame, on dirait qu'il faut chercher à l'éviter. Et or, on ne cherche pas à l'éviter parce que malheureusement, l'IVG est devenu un étendard idéologique. Et donc c'est quand même un peu surprenant. Et donc les femmes vivent ça. Vous parliez de la pilule, la méthode médicamenteuse. C'est pas neutre. Hein. Il y a des femmes qui vivent une hémorragie épouvantable. Et puis je vous passe les détails parce qu'on ne les a pas prévenues, parce que on ne veut pas parler de cela comme un drame. Voilà. Encore une fois, il faut le banaliser parce que ce serait faire le jeu des anti-IVG. Donc ça fait partie des sujets tabous. Il y a aussi des hommes qui poussent certaines femmes à avorter. Ça aussi, on n'a pas le droit. Il y a des témoignages sur les blogs.
Ou à l'inverse, qui ne peuvent pas s'y opposer, alors qu'ils ne peuvent pas s'opposer non plus à des reconnaissances forcées de paternité.
Et donc, tous ces sujets-là sont extrêmement tabous. Vous voyez, Karim ignorait, sauf si je me trompe, hein, que pour un enfant, par exemple, handicapé, mais je crois aussi en raison de... Ça a été voté, en raison de la détresse de la mère, la psychologie de la mère. Donc, c'est très large. Hein. Donc, un enfant en bonne santé, eh bien, on peut procéder à une interruption médicale de grossesse jusqu'à la veille de l'accouchement.
Le Missouri.
C'est quand même. Est-ce que tous les Français le savent? Je n'en suis pas certaine.
Le Missouri devient le premier État justement aux États-Unis à interdire l'avortement. Ça vient de tomber. Carrément.
Non, mais je ne le savais pas et je le reconnais. Et je pense que bon nombre des Français, effectivement, ne sont pas au fait de ces points de détail qui sont majeurs dans le cadre de la vie humaine. Moi, je ne dis pas que c'est utilisé comme un moyen de contraception. Je dis qu'il faut tout faire pour que ça ne le soit pas. Voilà tout ce que je dis. Et je dis qu'effectivement, il y a certainement des cas de souffrance, des cas absolus où il faut en passer par l'IVG. Donc je ne suis pas pour la remise en cause, évidemment, de l'IVG, mais je dis qu'il faut quand même qu'il y ait un cadre et que ce cadre soit clair, soit strict, soit connu de tous, et qu'il y ait une dimension éthique, ce cadre. Donc, et si c'est le cas, tant mieux. Et si on peut l'améliorer, ben faisons-le. Passer de 10 à 14 semaines, pour moi, je ne sais pas si c'était absolument nécessaire. Après, derrière, encore une fois, si c'est utilisé comme un moyen de contraception, il faut l'éviter. Parce que ça ne doit pas l'être. Donc, et pour tous les autres cas, si c'est nécessaire et qu'elles doivent en passer par là, je suis sûr qu'elles ne le font pas de gaieté de cœur. Évidemment.
Merci à tous les quatre pour rester avec nous. La deuxième partie de Punchline, on reviendra sur les propos d'un jeune député de la France Insoumise qui reprend les propos de Jean-Luc Mélenchon. La police tue. Il s'agit de Louis Boyard, qui est le deuxième plus jeune député à être élu effectivement en France. A tout de suite. La suite de Punchline, merci encore de votre fidélité à CNews, toujours avec Karim Zeribi, Gabriel Cluzel, avec Jean-Sébastien Ferjou et vient de nous rejoindre Mathieu Vallet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le commissaire, secrétaire général du syndicat indépendant des commissaires de police. Les débats dans un instant, juste après le rappel des titres, c'est avec Mathieu Debès.
Un an de prison, dont 6 mois avec sursis, requis en appel contre les ex-dirigeants de France Télécom. Selon le ministère public, l'ancien PDG Didier Lombard et son ex numéro 2 sont coupables d'avoir conçu et mis en place une politique de harcèlement moral ayant conduit des salariés au suicide entre 2007 et 2008. Une journée de grève nationale chez Total Energy à l'appel de la CGT. Les salariés réclament une hausse de salaire face à l'inflation. Une inflation qui pénalise leur pouvoir d'achat alors que le groupe a engrangé en un trimestre un bénéfice net de plus de 4 milliards d'euros. Aux États-Unis, la Cour suprême révoque le droit à l'avortement. Conséquence, les États sont désormais libres de l'interdire. Les États-Unis reviennent ainsi à la situation en vigueur avant 1973, quand chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser les avortements.
Mathieu Devès pour le rappel des titres. Merci à vous Mathieu, deuxième plus jeune député de l'histoire de l'Assemblée nationale, Louis Boyard, et affirme les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police qui tue. L'élu NUP LFI du Val-de-Marne était ce matin chez nos confrères d'RMC.
Sur cette question-là, il y avait même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives, où Mélenchon avait dit « la police tue ». Et c'est un fait que la police tue. La question, c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi, je pense que dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer. Et c'est ça qu'on veut porter, c'est de dire que ce n'est pas normal que, par exemple, dans le cas Adama, mais dans le cas de Steve Maya Canisso, qui a été qui est mort noyé après une charge de police, où ni la préfecture, ni l'État, ni les députés ne reconnaissent qu'il y a une responsabilité de l'État dans tout ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est même sur l'institution policière qu'on jette le discrédit.
Ce déni jette effectivement un discrédit sur toute l'institution policière. Mathieu Vallet, vous lui répondez quoi à ce jeune Louis Boyard?
Moi, je suis pas étonné. Monsieur Lubert, c'est un ancien voyou. Il avait reconnu sur C8 qu'il avait dealé. Donc, on sait que le parti de Mélenchon, c'est le premier parti des voyous de France. Enfin, à chaque fois, on a une parole pour les voyous et pas pour les policiers. Et puis, au-delà de ça, il est devenu juge, en fait, Monsieur Boyard. Il a donné les conclusions, toutes les instructions en cours. Sur l'affaire Steve Mafma, où il y a encore une instruction en cours.
Aujourd'hui, il va voter les lois, quand même. Hein.
Comment ?
Aujourd'hui, il va faire les lois, il va les voter.
Ah oui, oui. Enfin, il va pas encore décider en tant que juge au nom du peuple français pour rendre des condamnations ou pas. Et puis, il est pas encore juge d'instruction. Enfin, dans le régime totalitaire, peut-être qu'il rêve à la vénézuélienne. Peut-être que tous les mains concentrent les pouvoirs, la justice, le législatif et tout ça. Mais en tout cas, non, c'est désolant. Et puis surtout, c'est les voyous qui tuent. C'est pas la police qui tue. Les voyous qui tous les jours percutent nos collègues sur des refus d'obtempérer. Les voyous qui tous les jours n'hésitent plus à utiliser de la violence. Notamment, on l'a vu à Saint-Denis contre des policiers municipaux qui faisaient leur travail et qui rassuraient les gens et qui prenaient attache avec les commerçants. Et surtout, vous savez, sur cette affaire de la police qui tue, c'est clairement pour la cuvée électorale 2022. Enfin, il y avait déjà son patron qui avait fait le coup il y a 2 mois, ce qui, à mon avis, leur a coûté quand même pas mal de difficultés, puisqu'on voit bien que les Français, à 72%, même à 80% de son sondage, soutiennent leur police. Et donc, c'est ça qui est le plus désolant dans cette histoire.
Est-ce c'est représentatif, d'après vous, qui êtes sur le terrain, d'un certain sentiment de certains jeunes aujourd'hui en France en ce qui concerne la police?
Non mais les jeunes, vous savez, on a plus de 24 000 candidats qui se présentent au concours de gardien de la paix pour en moyenne 2 000 ou 3 000 places. Et c'est pas des personnes de 70 ans, même si on a une réserve opérationnelle qui va permettre aux gens d'avoir un travail et en plus d'être dans la police, qu'on a à rougir des feux. En fait, c'est des vieux prismes et des vieux réflexes de tocard de la politique que de dire ça. Il a 22 ans, il emploie déjà des méthodes de tocard, à savoir que la police tue. Enfin, c'est quand même bien triste ça. Et puis en plus, c'est pas la réalité. Mais je vous dis, je suis pas étonné. C'est toujours un mot pour les voyous, jamais pour les policiers. Et puis en plus, il est devenu criminalistique, monsieur. Louis
Boyard,
pardon, j'ai du mal à dire le nom des gens qui nous détestent, c'est à chaque fois qu'ils crachent notre institution. Et il est devenu criminaliste, il nous explique que sur les refus d'obtempérer, il faut tirer dans les pneus. Mais il faut l'expliquer à ce monsieur que d'abord, quand on tire dans les pneus,
ça n'empêche pas. Il parlait du refus d'obtempérer, voilà.
Oui, mais, bah, avec enfin, cette... ça n'échappe à personne, mais non, mais.
Cette jeune femme refus, qui est décédée.
Sur le refus d'obtempérer, oui, mais enfin. Bah c'est,
non, non, mais c'est juste pour préciser, c'est une jeune femme qui est décédée parce qu'elle a pris le mal dans la tête.
Pas de souci. Donc pour terminer mon propos, il faut lui expliquer à ce monsieur qui n'est pas criminalistique que, en fait, quand on tire dans les pneus, ça n'arrête pas le véhicule et ça n'empêche pas que des policiers soient fauchés, blessés, voire tués sur des refus d'obtempérer. Si c'était la recette miracle, ça ferait longtemps qu'on l'aurait appliqué. Et puis, s'il est un fervent défenseur de l'état de droit et qu'il est très attaché à la procédure pénale dont il bafoue les règles, hein, puisqu'il nous donne déjà les conclusions d'enquête qu'il ne connaît absolument pas et pour lesquelles il n'a jamais été partie civile ou même partie prenante dans les instructions, eh ben, il comprendrait que quand on est en légitime défense, on fait ce qu'on appelle un tir réflexe. Donc on n'a pas le temps de viser, on n'a pas le temps de savoir exactement où on va pouvoir faire les choses. C'est quand on a un danger imminent qui va mettre en péril notre vie et celle des autres que les policiers en fait utilisent en dernier recours la force pour protéger leur vie. Mais vous me direz, un policier mort, c'est peut-être beaucoup plus satisfaisant pour ce parti plutôt qu'un voyou qui voudrait tuer un policier et qui malheureusement perdrait la vie ou ses passagers parce que c'est lui qui cherche à tuer des policiers, pas des policiers qui cherchent
Gabriel
à tuer des
Gabriel Cluzel, c'est un fait que la police tue, elle ne tue pas tous les jours, mais ça arrive tous les ans. Voilà ce que dit Louis Boyard. La question, c'est de savoir si elle a le droit ou pas. Et de nombreuses fois, non, la police n'avait pas le droit de tuer. Cette rhétorique a-t-elle aujourd'hui un certain écho auprès de notre jeunesse ?
Moi, surtout, ce qui me paraît extrêmement grave, c'est que là, on ne défend pas la police. Hein, il faut se rendre compte de ça. Ce n'est pas la police en tant que corporation. La police, c'est elle qui défend les citoyens. Donc, s'il n'y a plus de police, c'est nous qui serons en prise directe avec les délinquants. Donc, il faut quand même que les Français se rendent compte de ça. Moi, je suis vraiment extrêmement heurté qu'un député, un jeune député, ça augure quand même assez mal de la suite, puisse faire ce genre de sortie. C'est une réflexion de chef de bande. Hein, et sa bande, bah, visiblement, elle est pas très recommandable. Moi, j'aime pas qu'on dise une certaine partie de la jeunesse. Moi,
je savais que vous alliez me reprendre.
Voilà.
J'ai pas dit la jeunesse, dis.
Non, mais c'est bizarre dans ce pays. On n'a pas le droit d'amalgamer, de stigmatiser tout ce qu'on veut. Mais en revanche, on dit les jeunes, comme si tous les jeunes détestaient la police.
Je dis ça, Gabriel. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on regarde les études, effectivement, concernant le lien confiance police, effectivement, on voit que le fossé se creuse. Doucement, mais sûrement, avec une partie de la jeunesse. C'est pour ça que je me permets de dire ça.
Bah, très largement, même en ce qui concerne les 18-24 ans, oui.
Non, mais qu'on ait des efforts à faire pour être plus proche des jeunes avec des dispositifs où on fait de la promotion et du recrutement et où en réalité on fait connaître notre métier, qu'on ait des stages. On a de plus en plus de stages qui sont ouverts aux collégiens, aux lycéens, puisque c'est la tranche d'âge dont parlait Jean-Sébastien Ferjou. On a aussi des contrats d'apprentissage. On a aussi maintenant la réserve opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être citoyen dans votre vie de tous les jours, travailler en tant que cheminot, travailler.
Plus de 7000 personnes là, j'ai vu que ça.
Oui, plus de 7000 personnes. Donc en fait, il y a des citoyens dès à présent qui peuvent participer à notre réserve opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un jour mettre la casquette de policier et être aux côtés des policiers pour faire des contrôles routiers, des contrôles d'identité, des prises de contact avec
la population. La formation dure combien de temps ?
Elle dure un mois. La formation dure 30 jours. Et donc, c'est une formation, en fait, dans laquelle on apprend bah, d'abord à être policier dans les rudiments, si j'ose dire, parce que la gardien de la paix aujourd'hui est formée depuis mai de cette année pendant 12 mois. Donc, en un mois, on ne fait pas des miracles, mais en revanche, c'est suffisant pour, comme la gendarmerie, permettre à des citoyens d'être à nos côtés jusqu'à 45 jours par an pour pouvoir, en fait, voir comment les policiers travaillent et surtout participer à la sécurité de leur propre pays et participer, ce que j'appelle, à la contribution du drapeau français. Voilà, quand on est patriotique et qu'on veut participer aux missions, c'est quelque chose de bien. Et pour répondre à ce qu'il disait, à ce que disait Jean-Sébastien Ferjou, on a aujourd'hui, il faut le dire, des stages qui sont ouverts dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale, durant lesquels, en fait, une semaine, deux semaines, des jeunes peuvent venir dans des commissariats, dans des services de police pour participer au quotidien et voir comment les policiers travaillent et ce qu'ils font.
Juste une précision, parce que effectivement, vous avez dit que la formation, je crois, pour ces réservistes, hein, plus de 7000 réservistes, et encore une fois, c'est un carton, alors que je le disais, fossé, d'après les sondages, en tout cas, se creuse entre la police et la jeunesse. La formation, c'est un mois, mais on précise, ils seront armés, c'est pas dangereux. C'est pas délicat, sachant qu'il y a aussi peu de formation.
Non, mais durant ce un mois de formation, ils seront, durant tous les jours de formation, formés à l'apprentissage de porter une arme, de l'usage éventuel d'une arme, éventuel parce que c'est toujours le dernier recours. Hein, on n'apprend pas dans les écoles de police à transformer les rues en Far West, c'est plutôt l'évolution.
On a les mêmes débats que la police municipale aussi, hein, quand elles sont armées. Oui, oui, si on a le même débat que les polices municipales, quand elles sont armées.
Il y a une formation complète, et vous savez, le recul qu'on a le plus sur ce sujet-là, c'est les gendarmes. La réserve des gendarmes, la réserve opérationnelle des gendarmes, elle existe depuis plus d'une trentaine d'années, et ça se passe très bien. Et ben, nous, la police, on est peut-être pas plus intelligent que les autres, mais on n'est pas plus bête que les autres. Et on a créé aussi une réserve opérationnelle. Par contre, plus compliqué au début à mettre en place que les gendarmes, parce que vous avez bien compris qu'on faisait affaire à des voyous plus durs, avec des territoires plus compliqués, comme des grands ensembles, des grandes agglomérations. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y avait aussi, par exemple, il faut le dire, je pense que Gary Zeremi en parlera peut-être, c'est compliqué pour un policier de travailler là où il habite, alors qu'un gendarme habite dans sa caserne de gendarmerie, qui est souvent dans des zones périurbaines ou rurales. On ne peut pas aujourd'hui faire héberger des policiers dans des cités là où ils travaillent dans des cités. Non, mais c'est une question de sécurité, malheureusement.
Pas que malgré tout, parce que l'affaire Adama Traoré, c'est à Persan dans le Val-d'Oise. Oui, vrai, il y a des zones urbaines difficiles qui sont dans les zones gendarmeries.
Malheureusement.
Mais moi, ce qui me choque dans les propos de Louis Boyard, c'est pas tant qu'il rappelle un fait. Oui, il arrive, c'est un fait qu'il y ait des morts dans des rencontres entre la police et un certain nombre de Français, en général des délinquants. Mais c'est la confusion qu'il établit entre tous les cas différents. C'est ça qui est profondément choquant. Et c'est d'essayer de dire, de suggérer que la police tuerait de manière récurrente et de manière quasiment institutionnelle, sans contrôle. À chaque fois qu'il y a des morts, il y a des enquêtes, il y a des expertises dans tous les sens. Poser la question aux gendarmes, justement, de l'affaire Traoré.
Ce à quoi il va me rétorquer que ce sont des policiers qui jugent des policiers.
Vous connaissez la rétorque. Expertise qui ont conclu à leur absence de responsabilité, parce que c'est un jeune homme qui... Enfin, la question est comment est-il mort en réalité. Pour le coup, ça n'était pas un tir, c'était une question d'étouffement. Et il y a eu beaucoup d'expertises qui dédouanaient les gendarmes. À chaque fois, on demande des expertises dans l'autre sens. Mais là, ils confondent tout. Ils confondent parce que les chiffres qu'il y a chaque année, sur les 15 à 20 personnes qui meurent chaque année, c'est tout aussi bien des forcenés qui se suicident quand la police intervient que des accidents de la route dans le cadre justement d'une poursuite, que des gens qui ont véritablement été tués par la police. Alors oui, bien sûr, il faut des enquêtes sur des cas comme Steve Maya Canisso, ou il faut des enquêtes sur le cas Cédric Chouva. Et bien sûr que ce sont des drames absolus et que personne ne peut considérer qu'il est justifié qu'un contrôle de police se traduise par ça. Mais c'est une infime minorité. C'est un pouillème du nombre de contrôles qui existent chaque année dans le pays. Et la confusion qu'introduit Louis Boyard, comme celle qu'avait introduite avant lui Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il remet en cause la légitimité totale de la police. Il n'intervient pas pour réellement essayer de faire en sorte que les contrôles soient éventuellement mieux faits ou que les enquêtes soient mieux menées. Il essaie de rendre illégitime la police. Pour dire que tout simplement, parce que derrière ça, il y a une pensée qui est assez structurée, hein, c'est en cas d'insurrection, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous répéter, ouais. Les insoumis qui veulent de l'insurrection, en cas d'insurrection, la police serait par nature illégitime à réagir face à l'insurrection. Parce que c'est ça la logique politique
propre. Karim Zerebi, effectivement, Mathieu Vallel a évoqué les propos de Louis Boyard. Je vais les redire. Avant les législatives, la police avait tiré sur une jeune femme qui avait mon âge, donc ce refus d'obtempérer. C'est notre rôle en tant que politique de dire qu'il n'avait pas le droit, il valait mieux tirer dans les pneus, c'est ce que vous disiez. C'est le rôle d'une parole politique que de dire ça. Voilà ce qu'a martelé le nouveau député DUP, la France Insoumise, deuxième plus jeune député de l'histoire en France. Mon cher Karim Zeribi, est-ce bien raisonnable?
Je ne le crois pas. Et dire que c'est un fait que la police tue augure d'une facilité de langage qui ne sert aucunement le débat qui est légitime que nous puissions avoir sur la formation des policiers, les effectifs, les modalités d'intervention en situation difficile. Et au contraire, ça le ferme dans une posture d'accusation contre une corporation dans sa totalité. C'est inacceptable. Il aurait pu aussi indiquer qu'il y a des policiers qui meurent dans l'exercice de la fonction, qui se font tuer.
Ou qui sont blessés.
Il en dit pas un mot. Donc, il aurait pu dire aussi, mais je crois qu'il ne connaît pas suffisamment la police nationale et ce corps, qu'on ne sort jamais son arme de gaieté de cœur. On le fait toujours dans un instant qui est ultime et qui est celui, effectivement, de se sentir en danger de mort ou avoir aux abords autrui en danger de mort. Donc, un fonctionnaire de police ne sort jamais son arme par plaisir. Il faut quand même le dire et le rappeler à nos compatriotes. Donc, et là, Boyard ne se comporte pas comme un député responsable, il se comporte comme un agitateur. Qui, normalement, il n'est plus. Quand on rentre à l'Assemblée, on a une certaine forme de responsabilité sur ses épaules. On est le représentant d'une partie du peuple français, donc en tout cas celui de sa circonscription. Donc moi, encore une fois, je suis, ça m'horripile de voir que certains veulent fermer le débat alors que illégitime que nous l'ouvrions et que nous évoquions la police nationale, la police de proximité, les modes d'intervention, la formation, l'usage d'armes, la légitime défense. Mais encore une fois, c'est aller un peu vite en besogne en oubliant que la violence légitime, il est un fait. C'est le fait de la police nationale. Et encore une fois, jamais de gaieté de cœur. Soit il n'a jamais rencontré de policiers, il n'a jamais discuté avec. Mais les policiers, je veux dire, même dans les manifestations des Gilets jaunes, parce qu'il a repris aussi ce propos en disant, et les manifestations des Gilets jaunes, les gens, les borniers, machin et tout. Mais je vais vous dire, pour en avoir parlé avec beaucoup de fonctionnaires de police, à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, le 28 novembre 2019, 18, ouais, donc il y a beaucoup de fonctionnaires de police, peut-être qui estimaient que les revendications de ceux qui portaient un gilet jaune et qui étaient en souffrance sociale, donc les revendications étaient partagées par beaucoup de fonctionnaires de police. Et il n'a jamais été un plaisir pour les fonctionnaires de police de charger des gens qui manifestaient pacifiquement. Et ça n'a jamais été le cas. Il y avait des black blocs, il y avait des gens qui voulaient porter atteinte à la vie aussi des policiers. Alors après, qu'on dise qu'on a mis peut-être le flashball entre les mains de gens qui n'avaient pas assez de formation, qu'on ait fait appel au bac un peu précipitamment pour faire du maintien de l'ordre alors qu'ils ne sont pas formés pour ça. Tout ça, c'est légitime que nous l'ayons dans le débat. Mais aucunement, ça ne permet de ouvrir la porte à dire que c'est un fait que la police tue.
Sans compter, juste d'un mot, et je laisse la parole à Gabriel, les manifestations dans lesquelles étaient présents des représentants de la France insoumise et dans lesquelles on entendait « Suicidez-vous la police ».
On l'a entendu.
Parce que ça, pour le coup, Louis Boyard, il se garde bien de le rappeler.
Mais le problème, c'est qu'on s'abutit à ces propos. La première fois, Jean-Luc Mélenchon a fait beaucoup réagir. Puis là, déjà, un peu moins. Donc on voit bien que ça va être un petit refrain, une musique de fond pour ces élus, alors que ça devrait susciter une levée de bouclier absolue, un tir de barrage pour dire « Non, mais ça, c'est ce genre, c'est le cas de le dire. »
C'est le cas de le dire.
C'est terminé, ce genre de propos. Il faut voir, vous disiez, il vaudrait mieux que, sans doute, un policier soit mort. Mais oui, vous savez, ce slogan de l'extrême gauche, un bon flic est un flic mort, ben on le vérifie tous les jours. C'est-à-dire que quand finalement ils n'ont pas le temps de réagir et qu'ils sont tués, alors là, bon, tout le monde y va.
On ne va pas souhaiter ça, Gabriel, quand même.
C'est son petit hommage, pardon ?
On ne va pas souhaiter ça, quand même.
Non, mais je
comprends votre propos.
Mais évidemment. Mais en revanche, finalement, il n'y a pas de manifestation contre la délinquance dans ces moments-là. Simplement, on lui rend les hommages, mais ce n'est pas ça qui est souhaitable. Aujourd'hui, le système est fait de telle façon qu'il doit dans sa tête faire une dissertation en trois parties l'espace d'une seconde pour réfléchir s'il est en situation de légitime défense et s'il doit tirer. Mais c'est une situation ubuesque et moi je suis très choquée. Bon,
pour vous, ces élus qui prennent de telles positions, Mathieu Vallette, devraient être sanctionnés. Si oui, comment ?
Il y a deux choses pour nous les policiers. La première, c'est qu'il ne faut pas qu'on perde ce combat moral. On a plus des trois quarts des Français qui sont derrière nous. On en a marre d'entendre une minorité qui est là pour faire de l'agitation et qui en réalité sert une cuvée minoritaire électorale, et en plus des gens, comme le disait Karine Zerbi, qui ne connaissent en aucunement ni notre institution ni notre métier, et qui viennent faire une patrouille avec la brigade intercriminalité de nuit pour voir en Val-de-Marne, puisqu'il est élu dans le Val-de-Marne.
Mais il va vous dire qu'il connaît les jeunes.
S'il connaît les jeunes, qu'il connaisse les policiers. On a des policiers en plus qui sont jeunes, donc il sera étonné de voir que les jeunes.
Ils ne représentent pas tous les jeunes.
Et qui sont là, exactement. Et puis c'est surtout la justice aussi. Tous les jours, toutes les semaines, on a des policiers violentés, traînés, percutés, fracassés, et les mecs, ils rentrent et ressortent dans un tribunal comme si c'était un moulin à vent. Okay. J'ai encore deux affaires récentes de moins d'une semaine où on a un policier qui a été traîné et prévenu, a pris 11 mois avec un bracelet électronique pour faire la prison à la maison, donc ça en dit long sur la vie d'un policier considéré par certains magistrats. Et ensuite, vous avez eu, il y a moins d'une semaine au tribunal judiciaire de Paris, il y a presque une semaine, c'est demain, un mec qui était là pour un refus d'obtempérer, pour une conduite stup, alcoolémie, violence sur des policiers, rébellion, le package habituel qui malheureusement banalise la violence sur les forces de l'ordre, et qui est ressorti du tribunal sans être incarcéré. Non mais ça c'est plus possible. Quand on touche à la peau d'un policier, à la vie d'un policier, qu'il soit blessé ou mort, ou même qu'il n'ait pas de blessure, c'est la prison.
Précisez les faits pour nous, parce qu'on ne connaît pas ce dossier.
Le premier cas que vous évoquiez du
Des 11 mois de prison avec sursis, je vais vous ressortir. C'est sorti, je vais vous ressortir.
Non, mais pour bien comprendre juste l'idée qu'il y avait derrière.
En fait. Ah, bah en fait, on a un policier qui fait un contrôle routier. La personne fait. Comment ?
C'est fait traîner, c'est
non,
ça ?
Non, non, il est devant le véhicule. La personne, en fait, lui présente au début, fait mine de lui présenter ses papiers. La personne redémarre. Le policier est devant le capot. Il est obligé de sauter sur le capot pour pas se passer sous les roues de la voiture. Et encore une fois, on a des réactions in extremis de policiers qui, professionnels et armés de sang-froid, arrivent à ne pas se faire blesser grièvement ou tuer. Mais ça sera pas tout dans le cas. Et parfois, les policiers n'ont pas d'autre choix pour protéger sa vie. Pas pour faire plaisir, pas pour transformer les rues en Far West, pas pour faire des victimes. Les victimes, ce sont les voyous qui les font. Ce ne sont pas les policiers. Les policiers protègent les victimes. Et on fait mieux, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes. Carrément. Mais c'est ça qu'un député de la nation doit avoir en tête. Là, il va être législateur. Il y a beaucoup de sujets là. Les peines minimales, les peines planchers, la présomption de légitime défense, les interventions du article 435-1 du Code de sécurité intérieure. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels on n'attend pas des bavardages ou du caviardage, mais on attend des actions concrètes, une loi qui est simple, qui est comprise par tout le monde et qui est en faveur des citoyens, c'est-à-dire des policiers et des victimes malheureusement qu'on a tous les jours et pas toujours et simplement.
Votre sentiment, Karim Zeribi. Alors je vous remets des images de M, hein, ce qui s'est passé près de Lille avec ce nouveau refus d'obtempérer.
Il faut surtout éviter, c'est se laisser enfermer entre ceux qui expliquent que la police et ce qui explique qu'il n'y a jamais de bavure. Il faut éviter de se laisser enfermer là-dedans. Parce que la vérité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Il y a déjà 3 millions d'interventions par an de contrôle fait par les fonctionnaires de police. Et vous voyez quand même par rapport à ce ratio qui est énorme, donc le peu d'interventions de l'arme illégitime. Et la plupart du temps, l'intervention de l'arme est légitime. Et quand elle ne l'est pas, je peux vous dire que ce corps est le corps le plus sanctionné dans l'administration française. Le plus sanctionné.
Et le plus contrôlé.
Le plus contrôlé, le plus sanctionné. À la fois par des mesures internes, mais aussi par la justice lorsque c'est nécessaire. Donc, se transformer en juge est vraiment très malvenu pour ce député. Donc, il n'est pas juge. Il est législateur. Et en tant que législateur, il a une responsabilité. Faire en sorte, effectivement, que nos forces de l'ordre républicaines, puissent avoir les moyens de travailler convenablement, partout, sur tout le territoire national, donc, pour assurer la sécurité de tous, et partout. Or, aujourd'hui, je ne sens pas cette aspiration chez lui. Je ne sens pas cette volonté de dire, voilà, on va débattre, il va y avoir une loi d'orientation pour attribuer, allouer des moyens à la police nationale. Normalement, cette loi, elle va arriver cet automne.
Oui.
Que va faire M. Boyard ? Est-ce qu'il va dire, bah, les deux revers de main, la police tue, moi je veux aucun moyen allouer à la police nationale ? Ou est-ce qu'à un moment donné, il va se mettre autour de la table pour débattre sérieusement, comme un député devrait le faire, donc de la manière dont on permet d'intervenir nos forces de l'ordre ? Franchement, il faut revenir à un débat
que la réponse sérieux, est dans la question.
Que des formules peu faciles, dévastatrices, dont nous n'avons pas besoin. La cohésion nationale, elle passe en grande partie par le renforcement de nos forces de l'ordre.
Des pressions naturelles et des précisions.
Je vous précise parce qu'après, on va encore dire qu'on fait des fake news ou qu'on essaie de servir une soupe électorale. Donc c'est le tribunal judiciaire correctionnel anciennement de Caen qui a condamné à 11 mois de prison sous bracelet électronique un automobiliste de 23 ans qui, le 23 juin 2022, avait percuté un policier lors d'un contrôle routier avec l'exécution de la peine à la maison. Non mais ça aussi, c'est plus possible, la prison à la maison pour des gens qui attentent à la vie des policiers, ça rime à rien. Et en plus, le pire, c'est que parfois, on a le périmètre dans lequel les voyous peuvent se déplacer qui, en fait, les empêche en rien de vivre correctement. C'est la prison derrière des vrais barreaux, derrière une vraie prison avec des miradors, des murs, que ceux qui veulent fracasser des policiers ou des victimes doivent passer l'exécution de la peine. Et pas chez eux à la maison avec.
Il n'y a plus de place, Mathieu Vallet, vous le savez bien.
Il n'y a plus de place, on va faire le tri. Hein. Vous enlevez déjà les escroqueries, les abus de confiance, les personnes qui n'ont pas de papier, vous faites un peu un tri dans tous les détenus qui n'ont rien à faire, que ce soit la gravité des faits ou par le statut administratif. On va faire des places et puis il faut faire mieux. Il faut construire des places de prison. Mais ça, c'est le Parlement aussi. Combien on donne à la justice pour construire des prisons ? Et puis moi, je veux bien qu'on entende de dire que les maires.
Elles arrivent. C'est ce que dit Éric Dupond-Moretti.
Non, mais ils veulent bien des places de prison, les maires, mais ils veulent pas chez eux, bah là c'est pareil. L'État, c'est ce qui est au-dessus de tout le monde. Au bout d'un moment, au nom d'intérêt général, on doit imposer aux communes de mettre des prisons pour qu'on puisse avoir des condamnations exécutées.
On parlait des compromis possibles avec la sortie d'Emmanuel Macron et sur le thème de la sécurité et de la justice. J'évoquais la possibilité d'en faire des compromis qui sont des concessions pour faire un pas vers un parti de l'opposition. Pourquoi ne pas le faire envers LR qui a une proposition concrète qui a été portée pendant toute la présidentielle, c'est porter atteinte à un représentant de l'ordre, c'est la casse-prison pendant un an, c'est pas négociable.
raisonnable. Donc, à minima, donc de la prison ferme. Donc, c'est une proposition concrète, donc, qui pourrait être reprise par la majorité présidentielle et qui pourrait trouver dans cette proposition donc, une alliance de circonstances avec le groupe LR, ce qui lui donnerait la majorité. Voilà les sujets sur lesquels, tout à l'heure, je disais qu'il y avait un curseur qui était possible. Mais ça signifie, pour le groupe de la majorité présidentielle, de faire une concession. C'est de reprendre donc, une proposition d'un groupe d'opposition, en l'occurrence LR, sur le sujet.
Et tout le monde veut des places de prison, Gabriel Cluzel, mais personne ne veut une prison près de chez soi.
Oui, non, mais ça, évidemment, il y a la question de la place de prison, mais de fait, on pourrait déjà commencer par faire un peu le vide, par exemple, en renvoyant chez eux, pardon de revenir toujours à ça, je suis toujours celle qui met les pieds dans le plat avec mauvais goût, mais les 25% d'étrangers qui, très objectivement, n'ont rien à faire chez nous, donc ça, ça permettrait de faire de la place. Mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait revenir. Les juges d'application des peines, parce qu'on a quand même l'impression qu'ils détricotent ce que le juge a fait avant. Alors on dit aussi que c'est lié avec les places en prison qui gèrent la misère, qu'ils gèrent la pénurie. Enfin, il y a aussi sans doute beaucoup d'idéologie. Il y a cette affaire de la présomption d'innocence, moi qui me paraît complètement dingue, je trouve fou qu'elle n'existe pas déjà. Parce que finalement, aujourd'hui, on a le sentiment que la parole d'un policier qui est formé, entraîné, recruté, assermenté, vaut autant que celle d'un délinquant multirécidiviste. Et c'est absolument inacceptable. Donc, sauf à vouloir regarder comme les vaches voient passer le train, les refus d'obtempérer, se suivre se ressembler, il va quand même falloir à un moment faire quelque chose.
Joe Biden va très certainement prendre la parole d'ici 5 petites minutes. Ce sera à vivre bien évidemment sur CNews. Le retour du masque et pourquoi pas du pass vaccinal, on en parle avec l'arrivée promise de cette 7e vague. Et Elisabeth Borne peut-elle tenir? Voilà tous ces sujets au programme de la dernière partie de Punchline. Vous restez avec nous, à tout de suite. Allez, de retour toujours en direct dans Punchline sur CNews avec ces images en direct devant la Cour suprême aux États-Unis. Cour suprême qui a donc révoqué il y a quelques instants le célèbre arrêt Roe contre Wade de 73 qui garantissait la liberté de choix des Américaines concernant l'avortement. Conséquence directe, 13 États interdisent avec effet immédiat justement l'avortement. 13 autres pourraient suivre très rapidement ce chemin. Le président Biden doit prendre la parole d'une minute à l'autre. Ce sera à vivre en direct sur CNews juste après le rappel des titres de l'actualité. C'est avec Mathieu Devez.
Au Maroc, 5 migrants morts et 76 blessés lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla. Au total, près de 2000 migrants ont essayé de pénétrer dans cette enclave qui fait régulièrement l'objet de tentatives d'entrée pour rejoindre l'Europe. En Bretagne, la pénurie d'eau inquiète avant l'été et particulièrement sur l'île de Groix qui connaît une sécheresse exceptionnelle. Début juin, la totalité de cette île a été placée en situation de crise, soit le niveau de gravité le plus élevé. Des restrictions sont mises en place dans le lieu touristique. Les vaccins contre le Covid-19 ont évité près de 20 millions de morts l'année dernière. Ce sont les conclusions d'une première vaste étude de modélisation. Une étude basée sur des données provenant de 185 pays et territoires. Les pays à revenus élevés et intermédiaires représentent le plus grand nombre de décès évités, près de 12 millions, ce qui traduit les inégalités dans l'accès aux vaccins dans le monde.
Merci Mathieu Devez, toujours avec Karim Zeribi, Gabriel Cluzel, Jean-Sébastien Ferjou et Mathieu Vallet qui est commissaire de police, direction sans plus tarder Nozy, le SEC en banlieue parisienne avec cette impression décidément de déjà-vu. Des parents d'élèves ont lancé une pétition pour demander la fermeture d'un squat et cela situé à quelques mètres seulement de l'entrée d'une école maternelle. Le mois dernier, deux bagarres ont éclaté justement en plein jour pendant les heures de classe. On voit ça avec Valérie Labonne et ce reportage signé Thibaut Marcheteau.
Ce bâtiment abandonné depuis plusieurs années abrite un squat dont les habitants sèment la terreur dans le quartier. Ils sont surtout devenus le cauchemar de l'école maternelle Petit Prince.
Il est là, il a 20 mètres de l'école justement, et c'est une problématique quoi.
Ce voisin qui témoigne anonymement a été témoin de deux bagarres violentes pendant le mois de mai en pleine heure de classe.
Ils sont produits avec couteau, machette, voilà. Et il y a eu l'intervention de la police. Et quand il y a eu l'intervention de la police, il y en a qui ont jeté des couteaux et machettes dans la cour jardinée qui est juste en bas là, de l'école.
Les parents d'élèves ont alors lancé une pétition pour fermer ce squat qui menace la tranquillité de l'école. Elle a à ce jour recueilli plus de 300 signatures. Une démarche que soutient cette autre voisine qui témoigne également anonymement par peur des représailles.
Je peux que les comprendre parce que quand mes enfants rentrent de l'école et qu'ils me disent papa est pas là, il est en train de nettoyer le sang devant la maison, oui, ça me pose un vrai problème.
Mais la mairie et la préfecture qui se sont saisies de l'affaire sont démunies. L'immeuble est une propriété privée et son propriétaire est aux abonnés absents. La préfecture devrait lancer sous peu une procédure de bien en état d'abandon manifeste qui peut aller jusqu'à l'expropriation.
Vous entendez le désarroi, Mathieu Vallet, de ses habitants, de ses riverains qui se disent mais que fait la police ? Même si vous allez me dire que c'est la justice et qu'il faut peut-être changer la loi sur les squats.
Non. Bah là, c'est pas la justice, c'est le droit. Vous voyez, au lieu de faire des commentaires nauséabonds sur la police, peut-être que si on a des législateurs qui connaissent la réalité des Français et surtout leurs problèmes, on parle de cet immeuble qui est squatté par des squatteurs à proximité d'une école. On peut parler des quartiers nord de Marseille où il y a des gens honnêtes qui payent leur loyer et qui sont obligés de rester chez eux pour pas qu'il y ait des squatteurs. On peut parler aussi de Clichy-sous-Bois.
Ils n'osent même plus quitter leur appartement.
On peut parler de Clichy-sous-Bois. Moi, j'ai été gardien de la paix à Clichy-sous-Bois. Vous savez que la copropriété du Chêne Pointu, c'est tous des propriétaires privés qui n'ont rien à faire de leurs locataires et qui leur font payer une fortune, et où derrière, on a une prospérité de la précarité, de la délinquance. Il faut faire que notre droit retrouve du bon sens. Aujourd'hui, il faut que dans les 48 heures, lorsqu'on a des personnes qui rentrent dans un domicile et qu'ils n'en sont pas ni les locataires ni les propriétaires, on les fasse en flagrant délit. C'est pas en flagrant délit, il faut entamer des procédures civiles. Vous parlez là d'un abandon de manifeste, mais il y a des mises en péril des demeures. Vous avez aussi des procédures d'expulsion que certains propriétaires entament. Bref, c'est un carcan. Quand on n'est pas chez soi, qu'on est ni locataire ni propriétaire et qu'on n'a pas la légitimité d'être dans les lieux, il faut que les policiers puissent, aussi simple que bonsoir, expulser les gens pour que les propriétaires, les locataires honnêtes et de bonne foi puissent récupérer leur bien. Enfin,
là, en l'occurrence, c'est une propriété privée, on peut rien faire.
Ah bah, il faut l'accord du propriétaire. Il faut que le propriétaire en fait saisisse les services de police avec un mandat clair pour que on puisse avoir la légitimité d'intervenir dans des lieux privés. Mais vous savez que
même quand on jette des couteaux, des machettes dans la cour d'école.
Ah non, mais là, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que les personnes qui occupent le squat, c'est une infraction en tant que telle, notamment du droit civil. Par contre, des personnes qui jettent des armes ou qui ont des armes sur elles, des armes dites par destination ou des armes blanches, là, c'est une autre infraction qu'elles commettent pour laquelle elles peuvent être interpellées. Mais là, ce qui m'avait enlevé l'idée de la tête, mais ça va me revenir. Mais là où ce qui est... je vais laisser les autres parler, mais ça va revenir.
Gabriel Cluzel, on peut rien faire, on en parle souvent, mais alors, encore une fois, il y a des exemples criants que les squatteurs pas du maternel.
Je m'étonne, c'est qu'il y a quand même un trouble à l'ordre public. Je ne sais pas, quand les gens mettent leur sonneau un peu fort, les policiers ont le droit d'intervenir, mais là...
Alors pour un trouble sonore, c'est du tapage diurne ou nocturne. D'ailleurs, les gens croient toujours qu'on peut faire du bruit la journée et pas la nuit, c'est pas vrai. Quand il y a un bruit trop fort la journée ou la nuit, on peut verbaliser, enfin faire une procédure de tapage, mais ça entraîne en aucunement la possibilité de rentrer de force ou d'avoir de la coercition. Ça veut dire que ces squatteurs, on peut constater, mais on ne peut pas aller ni les déloger, ni même rentrer dans l'appartement pour faire quoi que ce soit pour un tapage.
Pour les verbaliser, c'est le premier fil.
Il faut qu'ils puissent nous ouvrir, puisque là, on a des squatteurs, donc par nature, c'est compliqué d'établir une identité. Donc, c'est sûr qu'on aura des difficultés à établir une identité, sauf si on prend un tâche et que les gens ouvrent. Mais ils vont ouvrir.
Donc, tous ces riverains sont condamnés, Mathieu Vallet, à subir. On a vu, ils n'osent même pas effectivement témoigner à visage découvert.
Ah, mais non.
Ils sont terrorisés.
En fait, s'il y a des problèmes de délinquance qui sont liés par la présence de ces squatteurs, que ça soit par des agressions, par des jets d'armes blanches, couteaux, etc. Il le signale au service de police. Le commissaire ou le commandant de police qui dirige le service de police va mettre en place des patrouilles et des effectifs sur le terrain et on peut les interpeller en flagrant délit. Par contre, c'est ce que je vous dis, il faut aider nos policiers. Il faut que le droit soit plus simple. On ne doit pas se poser 20 000 questions quand on sait qu'on a des voyous qui rentrent illégalement dans des habitations qui ne leur appartiennent pas, propriétaires ou locataires, et qui n'ont ni la légitimité d'y rentrer, ni d'y rester. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se poser la question flagrance, pas flagrance, propriétaire, pas propriétaire, délai d'occupation. Mais vous voyez, c'est un carcan. Il faut que pour le policier, pour le citoyen, ce soit simple. Le droit du côté des victimes, pas des voyous. On en revient toujours au même. Et peut-être qu'on a des législateurs, on en a parlé pendant toute la campagne. Tout le monde en a parlé. Et il ne faut pas que en fait, cette situation elle soit à chaque fois la même, à savoir que le policier n'arrive pas à avoir tout droit avec lui pour intervenir.
Je vous coupe, Mathieu Vallet, effectivement, priorité au direct avec Joe Biden qui va prendre la parole et qui s'exprime en direct depuis la Maison-Blanche suite à la Cour suprême qui révoque le célèbre arrêt Roe justement sur ce droit à l'avortement.
Ils privent les Américains de ce droit. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Mais la Cour suprême a pris cette décision. C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays. il y a 50 ans, l'arrêt Roe contre Wade a été c'était puis la loi de notre pays. Cet arrêt a permis aux femmes de choisir, aux femmes de prendre une décision incroyablement personnelle avec leur médecin, libre de toute influence politique. Cela a réaffirmé le principe de base d'égalité, que les femmes ont le droit de choisir leur propre destin. Et cela a renforcé un droit fondamental à la vie privée. Le droit de chacun d'entre nous de choisir comment nous souhaitons vivre notre vie. Aujourd'hui, avec la révocation de l'arrêt Roe v. Wade, soyons clairs, la santé et la vie des femmes dans notre nation sont aujourd'hui menacées.
As chairman and ranking member of the Senate Judiciary Committee, as vice president and now as president of the United States,
en tant que vice-président, en tant que chef judiciaire, en tant que président, et vice-président, j'ai more Supreme Court confirmations than anyone today. This case plus de confirmations de juges à la Cour suprême.
I believe Roe v. Wade was the correct decision.
L'arrêt Roe contre Wade était une bonne décision.
Law and application of the fundamental right,
c'était la bonne interprétation de la Constitution et cela permettait aux familles d'avoir une certaine autonomie. C'est une décision, c'est un arrêt sur un sujet complexe. Trouver le juste équilibre entre le droit d'une femme de choisir au début de sa grossesse et la capacité du droit de l'État de réglementer la partie suivante de sa grossesse. La plupart des Américains croyants ont trouvé cette décision acceptable. C'est la loi dans notre pays depuis très longtemps. Et c'était un principe constitutionnel respecté par les juges nommés par des démocrates et des présidents républicains également. L'arrêt Roe contre Wade a été une décision 7 contre 2, décidée par des juges de la Cour suprême nommés par Nixon, entre autres. Depuis, des juges ont été nommés. Des juges républicains ont été nommés, ou des juges ont été nommés par des présidents républicains. Et ces juges ont été d'accord pour faire respecter l'arrêt Roe contre Wade. Ce sont trois juges nommés par un président, Donald Trump, qui ont aujourd'hui fait pencher la balance et ont supprimé ce droit fondamental pour les femmes de notre pays. Ne vous méprenez pas. Cette décision est le résultat d'un effort de longue haleine, de décennies d'efforts pour perturber l'équilibre de notre droit. C'est la réalisation d'une néologie extrême et d'une erreur tragique, de la Cour suprême, à mon sens. La Cour a fait ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a privé expressément un droit constitutionnel, privé tant d'Américaines pitié de ce droit. La décision de la Cour suprême aura un impact et de nombreuses conséquences. Certaines lois interdisant l'avortement vont entrer en vigueur dès aujourd'hui, mettant ainsi en danger la vie de nombreuses femmes. Et les femmes sont aujourd'hui punies lorsqu'elles cherchent à protéger leur santé. Aujourd'hui, des femmes, des filles sont obligées de porter l'enfant du violeur qui les a mises enceintes. Vraiment, j'en perds mes mots. Les médecins vont être criminalisés, vont être pénalisés alors qu'ils font leur travail. Imaginez un peu. Imaginez qu'une femme doive porter l'enfant d'une grossesse, avec une grossesse étant le résultat d'un inceste, sans le choix. Et très souvent, ce sont les femmes les plus pauvres qui vont être le plus impactées. C'est cruel. Aujourd'hui, on voit que la Cour a pris cette décision sur la base de lois qui dataient du 19e siècle. C'est un retour en arrière. C'est une triste journée pour notre pays aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas que le combat est terminé. Je tiens à être très clair et sans aucune ambiguïté vous dire la chose suivante. La seule manière d'assurer aux femmes le droit de choisir et la seule manière d'assurer cet équilibre passera par le Congrès. Le Congrès doit restaurer l'arrêt Roe contre Wade et en faire une loi fédérale. Le Congrès a ce pouvoir. Aujourd'hui, Les électeurs et électrices doivent se faire entendre. À l'automne, vous devez voter pour plus de représentants qui respectent le droit de choisir pour les femmes. Votez pour plus de chefs, pour plus de représentants qui protègent ce droit. Nous devons restaurer la protection de Roe contre Wade. Votez pour des représentants qui vont assurer ce droit. Cet automne, à l'automne, lors des élections de mi-mandat, c'est l'arrêt Roe v. Wade qui sera en jeu. Le droit à la vie privée, à l'égalité, tout cela sera mis en jeu lors des prochaines élections. En attendant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger le droit des femmes dans les États où les femmes sont confrontées aux conséquences de cette décision. La décision de cette cour jette une ombre sur de nombreux États. Certains États reconnaissent encore le droit des femmes de choisir. Et donc, si une femme vit dans un pays avec des restrictions à l'avortement, la décision de la Cour suprême n'empêche pas cette femme de voyager de son État à un État voisin où elle pourra subir une IVG. Les médecins dans cet État pourront s'occuper d'elle. Les femmes doivent être libres de voyager en toute sécurité dans un autre État pour obtenir des soins de santé. Mon administration protégera ce droit fondamental. Peu importe, si un représentant cherche à limiter le droit au déplacement de certaines femmes, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me battre contre cette attaque non américaine. Mon gouvernement protégera également l'accès aux femmes, l'accès des femmes aux médicaments approuvés par la FDA, l'administration des médicaments, et permettra aux femmes d'avoir accès à un avortement médicamenteux. Il y a un médicament approuvé par la FDA qui permet de mettre un terme à une grossesse et qui est très souvent utilisé pour traiter les fausses couches. Certains États déclarent qu'ils essaieront d'interdire ou de restreindre l'accès à ces médicaments et à ces avortements médicamenteux. Mais les gouverneurs extrémistes cherchent à bloquer l'accès des femmes en suivant les données de suivi du cycle menstruel. Par exemple, ces gouverneurs sont totalement en décalage avec la majorité des Américains. L'association américaine des médecins, les différentes associations de gynécologues m'ont écrit à moi et à la vice-présidente pour insister sur le fait que ces lois ne sont pas basées sur des faits tangibles et nous ont demandé de protéger l'accès à ces soins de santé. En limitant l'accès à ces soins de santé, la mortalité maternelle atteindra des sommets aux États-Unis. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que les médecins ont dit aujourd'hui. J'ai demandé au ministère de la Santé de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que ces médicaments soient disponibles. Et les politiques ne peuvent pas interférer dans une décision qui doit être prise entre une femme ou par une femme et son médecin. Mon administration restera vigilante quant aux implications de cette décision. Je vous ai déjà prévenu les risques pour la vie privée portés par cette décision. C'est parce que Roe reconnaissait le droit fondamental à la vie privée. L'arrêt Roe v. Wade est la base de tant de droits que nous considérons aujourd'hui comme acquis, des droits qui sont partie prenante et qui sont ancrées dans notre démocratie, le droit de prendre la meilleure décision pour votre santé, le droit d'utiliser, par exemple, le droit d'utiliser des contraceptifs, le droit d'épouser la personne que l'on aime. Le juge Thomas s'est exprimé aujourd'hui et a demandé à revoir le droit de prendre ses propres décisions pour, en matière de contraception, le droit d'épouser la personne que l'on aime. C'est une route dangereuse que l'on emprunte. Pour conclure, j'aimerais dire deux choses. Premièrement, j'exhorte tout le monde, peu importe à quel point vous êtes, vous croyez en ce sujet, je vous demande de continuer à manifester dans la paix. La paix. Aucune intimidation. La violence n'est jamais acceptable. Les menaces et l'intimidation ne sont pas des déclarations. Nous devons faire front contre la violence, peu importe vos arguments, peu importe vos convictions. Et deuxièmement, Je sais que bon nombre d'entre nous sont déçus par cette décision. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être confrontées à des situations très difficiles. Je vous entends. Je vous soutiens. Je suis à vos côtés. Les conséquences et le consensus du peuple américain, les principes cœur d'égalité, de dignité, de la stabilité de l'état de droit, exige que l'arrêt Roe contre Wade ne soit pas révoqué. Mais la majorité conservatrice de la Cour suprême a montré à quel point elles sont éloignées de la réalité de ce pays. Aujourd'hui, les États-Unis s'éloignent des autres pays développés. Mais cette décision ne sera pas un point final. Mon administration utilisera tous les pouvoirs à sa disposition. Le Congrès doit agir. Et avec votre vote, vous pouvez agir. Vous pouvez avoir le dernier mot. Le combat n'est pas terminé. Merci beaucoup. Je reviendrai dans quelques semaines.
Voilà pour les propos. Il s'est exprimé pendant une dizaine de minutes. Vous avez pu le vivre en direct sur CNews. Joe Biden, la vie des femmes est en danger. La Cour suprême américaine a donc criminalisé l'avortement. Des mots très forts du président américain qui a répondu effectivement quelques minutes après la satisfaction d'un certain Donald Trump qui a dit que c'était tout simplement cette décision de la Cour suprême, la volonté de Dieu. Mais Joe Biden semble encore confiant. Il pense pouvoir encore inverser les choses. Il a notamment faire un appel au Congrès, Jean-Sébastien Ferjou.
Je pense qu'il veut montrer, effectivement, enfin, c'est un jour extrêmement important dans l'histoire des États-Unis, ça c'est incontestable. Après, sur le vote d'une loi par le Congrès, ça n'a jamais été fait depuis l'arrêt Roe contre Wade. Parce que précisément, c'est bien pour ça que le droit à l'avortement aux États-Unis dépendait de cette décision de la Cour suprême qui considérait que les États ne pouvaient pas interdire l'avortement, les États fédérés ne pouvaient pas interdire l'avortement, mais pris dans l'autre sens, jamais une loi n'a été votée par le Congrès ni le Sénat américain pour garantir ce droit à l'avortement aux Américaines en tant que droit fédéral. Donc s'ils n'y sont pas parvenus en 40 ans ou en 50 ans, je ne sais pas exactement ce qui permet à Joe Biden d'imaginer qu'il le pourra maintenant. En revanche, c'est un combat politique, ça va être un combat politique. Il y a des élections plus tard dans l'année, les élections de midterms aux États-Unis, et incontestablement, ça fait partie intégrante de l'opposition entre cette nouvelle droite portée par Donald Trump notamment et les démocrates. Et Joe Biden, je pense, va jouer aussi de cette carte-là, pas uniquement parce que c'est un dossier évidemment extrêmement important, mais aussi parce que c'est son intérêt politique.
On rappelle que 26 États justement pensent à interdire l'avortement. La décision de cette cour va avoir des conséquences immédiates. Voilà ce que dit Joe Biden, Gabriel Cluzel. Des lois contre l'avortement ont été faites aujourd'hui, pillant les efforts de millions de femmes. Ces lois sont tellement extrêmes que certaines femmes peuvent être punies pour avoir été soignées.
Non, il faut voir que Joe Biden, là, il joue justement, il joue, si elle se tentait qu'elle ne soit pas déjà jouée du reste, hein, et pas en sa faveur, les élections de mi-terme de novembre. Donc, il va essayer de se refaire la cerise sur cette thématique qui est progressiste et qui est démocrate, s'il en est. Ça va être son cheval de bataille. Il n'est pas si à l'aise complètement parce que lui-même est catholique. Et vous savez qu'on lui a certains prêtres lui ont refusé la communion en raison de ses engagements sur l'IVG. Donc il peut avoir un discours parfois d'ailleurs un peu compliqué à suivre. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas arrivé comme une catastrophe naturelle telle que la présente Joe Biden. Il y a un mouvement de fond conservateur aux États-Unis qui l'a porté, et il faut savoir aussi que l'IVG aujourd'hui aux États-Unis, c'est jusqu'à 22 semaines. Je renvoie à toutes les femmes qui ont été enceintes une
jusqu'à
fois
jusqu'à 6 mois,
voilà, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça revient à 22 semaines, un peu plus, c'est un peu plus. Moins, ouais, encore plus, c'est oui. Plus, voilà, jusqu'au seuil de viabilité du fœtus. Donc c'est quelque chose, ça, mais en revanche, comme c'est tabou, personne n'a le droit de le dénoncer. Allez, donc, ça va peut-être ouvrir une réflexion partout sur le sujet.
Fait historique, merci à tous les quatre aux États-Unis. Il en sera également question dans sa dispute avec Elliot Deval. Excellente soirée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.